Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sadri Porlon.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Merci à vous de m'inviter sur Fleur d'Avocat.
Racontez-moi Sadri, comment et pourquoi vous êtes devenu avocat?
Alors comment j'ai fait des études pour le devenir? Si on peut résumer, je devais hésiter, ado, entre psychologue et avocat. Pourquoi psychologue et avocat? C'est que j'étais convaincu qu'il fallait que je fasse quelque chose que j'aimais faire et que j'en fasse, j'avais une passion pour quelque chose et que j'en fasse mon métier ensuite. Donc en gros, j'avais été convaincu par mon père, que mes parents en général, que si on faisait un métier par passion, on pouvait rigoler tous les jours en le faisant. Du coup, j'aimais écouter les gens et j'aimais débattre. Du coup, je me suis dit, écouter les gens, c'est psychologue. Débattre, ça peut être avocat. Et l'arbitrage a dû se faire de la façon suivante. Je me suis dit, à tous les coups, le psychologue ne peut pas être avocat, ça c'est certain, alors que l'avocat peut être fin psychologue avec ses clients. Donc l'arbitrage s'est fait à peu près comme ça. Puis j'avais une autre crainte, mais c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, j'étais persuadé à l'époque que j'arriverais à me convaincre que tous mes clients, si j'étais psy, j'arriverais à les convaincre qu'ils ne sont pas complètement particuliers et que j'arriverais à m'en convaincre moi-même et à adopter une partie de leur attitude. Bon bref, c'est pas complètement vrai, je pense que c'est pas du tout, ça ne correspond pas à la réalité du métier psychologue, mais en tout cas, je me suis dit... Ce que je préfère faire, c'est débattre. Et en plus, pour être tout à fait précis, ce que je préfère faire, c'est avoir raison. Et donc, du coup, être payé pour avoir raison, je trouvais ça... Enfin, c'est un projet de vie extraordinaire.
Mais vous n'êtes pas trompé, parce qu'effectivement, pour être bon avocat, il faut aussi être bon psychologue.
Oui, alors, ne m'en parlez pas. Non, non, j'ai des échanges quotidiens avec des clients, peut-être beaucoup trop longs d'ailleurs, il faudrait que je fasse un effort sur ça, qui montrent que ouais, il y a une vraie part de ça. Et pourtant, je fais une matière, donc on en reparlera, nouvelle technologie, propriété intellectuelle, un peu de droit des médias, qui n'appelle pas beaucoup normalement à psychologie, c'est-à-dire que les gens viennent pas vous parler de divorce, viennent pas vous parler de non plus de d'un meurtre, du pénal. Donc normalement on évacue ça. Ce sont des entrepreneurs, quelque chose d'assez carré. Ils ont une œuvre, donc normalement on devrait pas rentrer dans des considérations de psychologie. Eh ben pourtant j'en ai tout le temps. Notamment au moment des négociations. Mon œuvre, c'est mon enfant, ce type de choses. Bon, bref, c'est. Du coup, ils l'ont. Bon, bref.
Qu'est-ce qu'on lâche dans les négos?
Qu'est-ce qu'on lâche dans les négos? Ouais. Oui, il faut convaincre les personnes de renoncer ou pas de renoncer. Moi, je ne les pousse pas à renoncer, mais en tout cas, ça montre qu'il y a de la psychologie. Et donc, pour revenir au cheminement, du coup, j'étais en Guadeloupe, donc j'ai vécu en banlieue parisienne quand j'étais petit, je suis né. Je suis parti avec mes parents. En Guadeloupe, j'ai fait jusqu'à l'équivalent de L3 en Guadeloupe. Je crois à peu près me rappeler, je dis à peu près, en fait, j'ai une mémoire assez intéressante, donc je suis à peu près sûr que ça s'est passé comme ça. Je devais faire un TD en droit commercial sur la contrefaçon. Et j'avais trouvé super intéressant cet échange avec le chargé de TD sur le fait qu'en contrefaçon, les ressemblances étaient plus importantes que les différences. C'est-à-dire qu'en fait, ça servait à rien de rajouter des différences qui contestaient les ressemblances. Je trouvais ça fascinant, j'avais compris que c'était de la propriété intellectuelle. Donc là, j'avais en tête de partir pour mon M1, l'équivalent du M1 à l'époque, qui s'appelle une maîtrise tout court, ouais, c'est ça, maîtrise, en métropole. Donc j'y suis allé, je suis allé à Aix. À Aix, j'ai pris une option propriété intellectuelle. Et j'avais pour ambition de faire un M2, j'ai fait un M2 à Montpellier, en droit de l'informatique à l'époque, qui contenait des nouvelles technologies déjà. C'est au début des années 2000, des nouvelles technologies déjà, et c'était vraiment le début des nouvelles technologies. Donc c'était intéressant, parce qu'il y avait déjà l'aspect propriété intellectuelle dedans, et puis ce truc de boom de la bulle Internet, le truc Internet,
tout
le
monde en point com,
les logiciels... Donc j'avais trouvé ça super intéressant et du coup ça a un peu guidé le reste de mon cursus.
On va en parler, j'ai une question. Le fait de venir en métropole, c'était
Est-ce qu'il y avait une offre de formation pour poursuivre après la licence ? Est-ce que c'est un peu un passage obligé quand on veut poursuivre ses études ?
C'est pas un passage obligé, mais en fait, il y avait un seul choix, c'était un M1 droit des affaires, un M2 droit des affaires. Et on avait un truc très très intéressant en y repensant en Guadeloupe pour ça, c'est que comme on pouvait pas faire venir des très bons profs sur une durée du type, j'ai une bêtise, 3 heures par semaine pendant 9 semaines,
oui.
On faisait venir des profs mais vraiment réputés. Pour le coup, on a eu Jacques Mestre, on a eu vraiment les meilleurs, sur une période d'une semaine. Donc en fait, on faisait en licence, et pendant une semaine,
les
meilleurs qui viennent, je pense, parce que bon, accessoirement, alors je sais pas si c'est super bien payé, mais en tout cas, c'est défrayé. Ils sont profs, donc de toute façon, ils sont payés correctement. Mais ils viennent un peu, voilà, ils font une semaine intensive. Ils nous donnent je sais plus si c'était 40 heures, je dirais, 40 heures de leur module. Et nous, tous les jours, de 7 heures, parce qu'en Guadeloupe, on commence tôt, c'est le CF se lève tôt et se couche tôt. De 7 heures à, je sais pas moi, 19 heures, on a un cours fondamental du lundi au vendredi. Donc du coup, non, il n'y avait pas beaucoup d'offres, mais de toute façon, moi, vu que j'avais ce truc de « je veux faire de la propriété intellectuelle », le M2 m'intéressait pas, et puis ça m'intéressait aussi de repartir en métropole, parce que j'y étais né, et on se dit souvent que tout se passe avant 6 ans. Bon, en gros, j'avais un attachement, j'avais moins d'appréhension que d'autres amis sur la métropole, parce que vraiment, j'avais une grosse partie de ma famille qui était là-bas. Ça posait absolument pas beaucoup de soucis de me dire d'y retourner, quoi.
Donc typiquement, Montpellier, vous aviez de la famille ou des amis?
Non, j'avais pas de famille à Montpellier, j'avais de la famille à Aix, donc un oncle par alliance. Donc j'étais à Aix-en-Provence, oui. En réalité. Et j'avais de la famille à Paris. Mais bon, on va dire que globalement, j'étais beaucoup moins isolé que certains amis qui avaient très peu de proches... Donc bon, ça, il n'y avait pas d'acclimatation particulière. L'acclimatation, c'était de me dire, bon, d'un coup, je suis plus du tout chez mes parents. Alors, ça, c'est l'acclimatation.
La lessive, les courses.
Voilà, il y avait ça. Mais bon, donc du coup, je me dirigeais vers ça. Et puis le métier d'avocat, je l'avais toujours gardé en tête. J'ai eu, on va dire que je pense que je l'ai pas particulièrement bien travaillé l'examen d'avocat, je devais être un peu dispersé, conscient que j'avais une bonne mémoire et que ça devrait suffire. Donc je l'ai raté à plusieurs reprises, mais j'avais passé une prépa où je crois...
Vous l'avez raté deux fois ?
Je l'ai raté, ouais.
Ah ouais ?
Et du coup, j'ai passé une prépa où, quand je l'ai raté la deuxième fois, la responsable m'a dit « Mais est-ce que tu réfléchirais pas à... Parce que je pense que tu as envie de devenir avocat. Enfin, en tout cas, ça se voit. Et puis, ce que tu écris est pas mal. » Je l'ai raté en plus de très peu, parce qu'il arrivait à des gens très bien. Et donc, elle m'a dit « Est-ce que tu n'envisagerais pas, puisque tu as l'air de pas détester écrire, faire une thèse ? Tu pourrais la faire en 4 ans, ou 3, mais plutôt en 4. » D'autant que ça te donnerait la possibilité ensuite d'intégrer la profession. Donc je me suis dit, bon, c'est déjà, il faut trouver le sujet. Est-ce que vraiment j'ai envie de me lancer 4 ans dans ça ? J'en ai discuté avec mes parents. Il fallait, bon, en gros, qu'ils me disent OK, parce que il fallait mener les deux de front en bossant. Je pense que c'est possible, hein, mais.
Du coup, c'est pas 4 ans de thèse, c'est potentiellement 7.
Voilà, c'est. Ouais. Et sachant que moi, j'ai vraiment des amis proches qui ont fait plus que 10. Enfin, bon, ce qui paraît fou, mais voilà, c'est plus que 10. Donc, tout ça pour dire qu'il fallait la validation de mes parents. Ils m'ont dit, OK, si tu t'y mets vraiment, je m'y suis mis vraiment. J'avais une possibilité, peut-être à la fin des 3, de la finir. Bon, c'était un peu compliqué quand même, je voulais faire quelque chose de bien. Au bout des 4, je l'ai terminé. Je l'ai présenté, je l'ai eu.
Et donc, c'était une thèse sur quel sujet ?
Sur la qualification juridique des jeux vidéo. Donc, c'était ce qu'on peut appeler une thèse professionnelle, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu deux types de thèses. On sait, enfin, deux types, j'exagère un peu, mais en gros, on sait qu'il y a des étudiants qui bossent dans l'idée de devenir professeur. Donc,
une approche très doctrinale.
Voilà. Oui, aussi, oui. Déjà, le sujet en lui-même, ça ne peut pas être un truc aussi précis que la qualification juridique des jeux vidéo. Ça doit être... beaucoup plus prospectif. Donc ça, c'est l'ambition de celui qui veut devenir prof. Et puis, il y a une thèse, entre guillemets, professionnelle. Les deux portent le même nom, hein, qui consiste à prendre un sujet pratique et à se lancer dedans, dans l'espoir de le finir correctement et dans un délai plus court. Parce que l'autre, par définition, il est tellement embrasse-tout que votre directeur de thèse, il peut dire... Oui. Allez, on repart sur une autre idée encore. Ouais. Repartons sur ça et réfléchissons ensemble et tout. Donc du coup, j'ai un directeur de thèse très très bon, une sommité dans Jean-Michel Bruguière qui est très bon dans son domaine. Et puis donc il a bien suivi, j'ai pris le temps matériel de le bosser, on l'a soutenu ensemble, ça s'est bien passé. Et là, j'avais ce sésame du coup pour intégrer l'école d'avocat. Ce qui au passage, quand je repense maintenant à mon parcours, je sais qu'aujourd'hui, j'adore écrire beaucoup. J'adore convaincre, bien entendu, mais j'adore écrire beaucoup. Et je trouve que cet exercice qui vous permet de reprendre de la perspective par rapport à vos études, il est intéressant malgré tout. C'est-à-dire que d'un coup, on n'est plus dans l'examen, on est dans la recherche, et la restructuration de la pensée, de faire en sorte de absolument pas faire des copier-coller de quelque chose ou quelque chose, de proposer des choses. Ça, c'est un truc qui me sert... Encore en tant qu'avocat aujourd'hui, parce que recevoir les pièces, déconstruire le raisonnement, proposer une stratégie à des clients. Alors, je pense que du coup, cet exercice de rédaction de thèse me sert encore plus à mettre en perspective tout ça. C'est-à-dire que finalement, il y a une tonne de données, et de cette tonne de données, on doit sortir un truc utile, mais vraiment utile, pragmatique. Alors, c'est un sujet que j'avais beaucoup abordé avec mon directeur de thèse, c'est qu'il ne faut pas seulement débiter des interrogations, mais vraiment en faire un truc pratique qui fasse avancer ce qui existait déjà dans l'état de nature, entre guillemets, dans l'état de l'art, dans ce que la doctrine avait rédigé. Ça, c'était intéressant.
Dans le cadre de ma deuxième activité, Iris et Thémis, c'est de la diffusion d'offres de recrutement. Et donc, on parle avec des cabinets d'avocats, des avocats sur leur projet de recrutement. Et donc, forcément, ça nous amène à parler du profil, entre guillemets, désiré. Et je me souviens d'avoir échangé avec un prospect qui m'a dit, alors, surtout pas un thésard, surtout pas, parce que j'en ai une. Mais alors, ça me débitait des pages et des pages de doctrine et de considérations. Mais c'était absolument pas applicable, c'était pas du tout pragmatique et tout. Et c'est vrai qu'il y a cette appréhension, ce préjugé, on va dire, que les thésards sont dans du droit, des kilomètres de droit, mais finalement, avant d'avoir une solution concrète et pragmatique, on peut attendre. Et c'est marrant parce que, enfin, je sais pas si c'est marrant, mais moi je me dis au contraire, a priori, une personne qui a réussi à pondre une thèse, enfin, elle devrait pouvoir être un bon praticien derrière, parce que c'est quand même une capacité d'analyse et d'absorption de documentation dont il faut ressortir une matière pour un client qui est énorme. Enfin, je veux dire.
Normalement, oui, mais j'ai eu un stagiaire avant d'avoir un collaborateur. On en reparlera. Mais l'idée, c'est que de toutes les façons, j'aurais tendance à dire que ce tempérament d'en faire une application pratique des connaissances qu'on a, je pense que ça s'acquiert avec le temps. Quoi que disent les avocats en la matière, j'ai échangé là pas plus tard que récemment, aujourd'hui, hier, je ne sais plus exactement, avec une ancienne stagiaire qui me disait elle est en première année de collab et elle regarde toujours tout le monde autour d'elle en disant « ils sont brillants, ils vont plus vite que moi, j'ai l'impression... » Ils me disent que je suis bien, mais j'ai l'impression que... Ils sont gentils parce que moi, je me trouve submergé. Et je lui disais, j'aurais adoré vous dire que ils sont juste brillants comme ça, à l'état de nature, mais en réalité, ils ont juste de l'expérience. C'est un métier, c'est rigolo, parce que celui qui vous dit ça, qui vous dit « ils sont pas capables de », je vous promets qu'on le prend en première année de collab, ou en stagiaire.
Oui, probablement qu'il n'était pas foutu,
lui, non plus. Ce qu'il produisait n'était pas dingue. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir en tête ce côté « allez, rendons le truc pratique », peut-être plus que son camarade d'à côté, mais en qualité pure, ça n'a aucun sens de comparer ce qu'on fait, nous, avec 15-20 ans d'expérience, à ce que fait un stagiaire. Le stagiaire, il sort... Déjà, il doit emmagasiner vite, parce qu'on lui dit de faire vite les choses, quoi qu'on dise. Vite de la matière. Et il fait ce qu'il peut pour faire quelque chose d'assez pratique et utilisable. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres pour restituer. Mais en réalité, ça s'apprend. Et ça s'apprend comment ? C'est que le client, il dit « Écoutez, moi, vous m'envoyez un truc ?» J'ai pas du tout compris où vous vouliez en venir.
Et du coup, qu'est-ce que je fais ?
Et qu'est-ce que je fais ? Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, enfin, on en reparlera peut-être, mais j'ai rencontré mon épouse sur les bancs de l'école d'avocats. Et elle me dit souvent, parce que bon, elle est venue juriste maintenant, elle était avocate, elle est venue juriste maintenant, elle me dit, mais vraiment, quand elle est en service juridique, quand elle est un peu embêtée, elle me dit, mais vraiment, les avocats, vraiment, vous, parce qu'elle est passée de l'autre côté de la barrière, bien entendu, vous savez pas directement faire le truc pratique et utile pour les clients. Et l'un des conseils qu'elle me donne et qu'on utilise au cabinet avec mon collaborateur, c'est une consultation. Elle commence par un encadré où il y a la réponse à la question.
Oui.
Et alors moi, je pense que je suis un conteur d'histoire dans l'absolu. C'est pas que je refuse, je le fais. Mais c'est vrai que ça vous oblige du coup à faire un truc le plus pratique possible parce que vous commencez par la réponse. Et ensuite, si vraiment le client veut, il peut se connaître tout le déroulé.
Mais j'ai eu cette discussion hier avec mon amoureux, rien à voir, qui est dans le design. Et ils sont en train de travailler sur un livre blanc, sur une problématique concrète, sur une problématique technique concrète, et que j'ai relu. Et donc, je relis, je fais toutes les corrections et tout. Et il me dit, bon, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, c'est super intéressant. Le raisonnement se tient. Et à la fin, je comprends pourquoi telle recommandation. Mais quand même, peut-être en première page, juste un encadré avec le constat, c'est... Et donc, la recommandation, c'est de faire ça. Et ensuite, si les gens ils veulent creuser, derrière, ils ont tout le raisonnement. Exactement. Avec à nouveau les définitions, avec à nouveau... voilà. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on... C'est un réflexe auquel on acquiert parce qu'à un moment, on a échangé avec quelqu'un qui a dit « Non, mais en fait, oui, non. C'est intéressant, mais déjà, genre si avant... Je pouvais déjà avoir la réponse.
Mais oui.
Ça satisferait ma curiosité, entre guillemets. Puis ensuite, je veux approfondir. Et en fait, je vais aller lire les arguments et je vais aller essayer de comprendre ce qui se passe. Mais ouais.
Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, si vous creusez un peu, vous regardez, les stagiaires qui sont capables de faire ça souvent ont fait plus de stages que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont été plus souvent confrontés à quelqu'un qui les a relus et qui leur a dit... Parce que finalement, c'est bête et méchant. C'est la question juridique est posée. Il faut une réponse la plus carrée possible. Il ne faut pas... à qui j'en parlais récemment, je ne sais plus, mais en gros, moi, quand je vois des consultations, parce qu'il peut m'arriver de relire des consultations rédigées par d'autres, on va dire, je dis souvent, le droit, on n'a quasiment pas le droit de dire aux clients, surtout dans la matière, il y a des matières où il y a plus d'aléas, on n'a pas le droit de dire... Il est possible que, ou on pourrait éventuellement... Je me rappelle, dans l'un de mes premiers stages en tant qu'élève avocat, donc la fille de l'avocat en chef qui travaillait avec lui me disait, quand je lui ramenais, comme quoi c'est formateur, quand je lui ramenais quelque chose en lui disant « je crois que », elle me disait « mais je ne comprends pas ce que vous me dites, parce que je crois que ça n'existe pas, soit vous êtes sûr, soit vous n'êtes pas sûr ». Elle était un peu... même chose, elle me disait « il faut être précis ou on dit rien ». Dans ce cas-là, on dit rien du tout, mais il faut être d'une précision folle. On n'a pas le droit, en fait, on nous sollicite, on nous paye cher pour ça, pour être d'une précision folle. C'est-à-dire que les gens viennent, parce qu'ils veulent avoir une réponse juridique carrée. Il y a des matières qui ne s'y prêtent pas. Vous prenez le droit social, une réponse juridique carrée, souvent, c'est une réponse écrite avec un aléa et un coup de téléphone qui, lui, n'est pas enregistré avec « bon, je pense que ça passe, ça va plutôt bien passer » et tout. Mais, enfin, je caricature, hein, mais il y a des parties du droit social où il est tout à fait possible de répondre de façon basique. Mais moi, je suis dans une matière, typiquement contrefaçon. J'ai une activité, on en reparlera peut-être, mais j'ai une activité aussi de prof. Je donne des cours en école d'ingénieur. C'est un plan qui m'avait été donné, que je fais depuis 10 ans, que j'ai gardé. Mais souvent, vous avez des élèves qui vous posent une question et qui imaginent des réponses par le biais du bon sens. En droit, par exemple, du type contrefaçon, la contrefaçon, si c'est pour une association, par exemple, c'est possible, on est d'accord. Souvent, c'est la question qui pose ça. Ça passe si on utilise l'œuvre pour une association, ou ça passe si on ne gagne pas d'argent avec. Et en fait, je leur dis, mais là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. C'est-à-dire que finalement, tout ce que vous me dites, tous les prétextes que vous me donnez, comme ils n'existent pas dans l'état de nature, c'est une légende urbaine, vous avez entendu. Ou alors, si on utilise 4 secondes d'une chanson, ça passe. Je dis, non, ça ne passe pas. Mais c'est
4 secondes, 4 minutes, même combat.
Voilà, 4 secondes, 4 minutes, c'est pas ça. Et donc, ce que le client attend, et ça, vous l'apprenez en stage, en fait, C'est une précision dingue. Et il veut que vous preniez des risques. Et pas des risques au sens aller surjouer le côté « je suis sûr ». Si vous n'êtes pas sûr, de toute façon, vous pouvez le dire. Vous pouvez dire « écoutez, il y a une incertitude, mais quelque chose d'affirmé ». Et en fait, quand vous vous fixez comme objectif d'être catégorique, vous êtes pragmatique et vous êtes précis. Voilà. Mais ça, en réalité, c'est toujours pareil, on refait l'histoire, on oublie qu'on a été soi-même stagiaire. Enfin, j'accuse personne, mais moi, je m'en rappelle, en fait, que je l'ai été. Et on pense que on n'a pas progressé dedans. Moi, je peux vous dire que j'ai progressé entre mes débuts dans la façon de rédiger et aujourd'hui. Mais pour l'arbitrage pratique des choses, voilà.
Et donc, en tout cas, vous menez cette thèse entre guillemets professionnelle. J'imagine que pour répondre à une question, enfin aujourd'hui, donc vous êtes encore dans l'IP IT. Vous avez fait cette thèse sur la qualification juridique des jeux vidéo. J'imagine que ça vous a amené à brasser beaucoup de textes de loi, de doctrine, de réflexion de ce point de vue-là. Mais j'imagine que ça vous a aussi amené à rencontrer pas mal de personnes dans l'écosystème des jeux vidéo. Et que quand vous êtes devenu avocat, ça a dû vous être utile aussi d'un point de vue, je sais pas moi,
contact. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est un écosystème assez petit. Il y a des grands du secteur, Ubisoft et compagnie. Moi, j'avais plutôt rencontré quelqu'un au ministère des Finances, d'assez brillant, qui avait répondu à mes questions. Le sujet m'avait été soufflé par quelqu'un à la Commission européenne, un ami de promo qui travaillait. Donc, j'ai surtout gardé ce type de contact. J'en ai pas profité quelques années plus tard pour creuser plus sur la question. À l'époque où j'ai rédigé la thèse, il y avait vraiment une interrogation folle. Le CSPLA n'avait pas encore rédigé.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
C'est ça, de la propriété littéraire artistique. Ouais. Il n'avait pas encore rédigé une note conséquente sur le sujet. Donc j'étais avant cette note. Et donc depuis, des choses se sont débloquées. Il y avait beaucoup de contentieux, de personnes qui travaillaient dans le secteur du jeu vidéo, sur le design justement, pas sur le logiciel, et qui militaient pour que l'aspect design de leur contribution soit pris en compte et ne soit pas considéré comme faisant partie consubstantielle d'une œuvre collective. Enfin bon, bref, ça devient assez technique. Mais en gros, l'idée, c'est j'ai pas plus creusé dans ce domaine-là parce que j'étais amené dans le cadre de mes stages à brasser plus de considérations autour d'Internet qui devenait encore plus important. Okay.
Donc en fait, vous terminez cette thèse, vous rejoignez l'école des avocats, mm-hmm. et donc là, qu'est-ce que vous avez fait comme stage ?
Alors j'ai fait un stage chez quelqu'un qui est devenu mon mentor, Gérald de Bigle, avec sa fille du coup, qui lui était spécialisé en audiovisuel. C'est l'un des avocats qui a accompagné la création de Canal+. Enfin, il a eu beaucoup de. Il était beaucoup dans les. Il accompagnait beaucoup de réalisateurs de films assez connus dans les années 70-80. Donc, ça a été un stage. C'était mon stage en alternance. Je l'ai trouvé super intéressant. C'est d'ailleurs quand je me suis installé chez lui que j'ai commencé. Donc, premier stage vraiment, vraiment formateur avec sa fille et lui. J'ai beaucoup appris parce qu'il y a deux profils complètement différents. Elle très exigeante, lui très exigeant aussi, hein, mais beaucoup plus dans la décontraction. J'avais découvert, là je vous reçois, je ne suis pas en costume, mais j'ai découvert déjà à l'époque qu'en propriété intellectuelle, on s'habillait déjà différemment des autres avocats. C'est-à-dire qu'on ressemblait à ses clients et que les clients étaient à la cool, mais. Voilà, si on mettait un pull, on était beaucoup plus décontractés que tous ces gens qui travaillent en corporate, qui sont très bien, hein, pas de problème, mais qui se disent, voilà, on était dans un état d'esprit différent. La matière en elle-même était, on gérait moins de choses graves et on était plus dans la légèreté. Et on pouvait prendre de la hauteur et se dire, non, on sauve pas la veuve et l'orphelin, ni quoi que ce soit. Mais on prend du plaisir à traiter une matière qu'on aime. Donc ça rejoignait ce côté, on peut travailler en rigolant, quoi. Voilà, donc premier stage chez Gérald de Bigle. Deuxième stage, j'ai dû le faire au Forum des droits sur l'Internet, qui n'existe plus actuellement. C'était une structure de médiation pour des personnes qui subissaient des problèmes sur Internet en général. Donc pas livrés, pas Et donc, c'était une structure qui était dirigée par Isabelle Pfeig-Pirotin, qui a pris ensuite la direction de la CNIL. Et là aussi, des rencontres dingues. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un peu une respiration, le PPI. C'est-à-dire que d'un coup, vous étiez à l'école d'avocat, mais on vous obligeait à aller en entreprise ou en structure ou en juridiction. C'est pas que ça comptait du coup pour du beurre, mais c'était l'occasion de voir, alors bon, finalement, si je deviens juriste, ce serait comment ? J'ai rencontré des juristes juste formidables, que je fréquente encore aujourd'hui, qui sont partout, une au Syntec, une au MEDEF, une autre dans une association, et on se voit encore, je donne des conférences pour elles dans ces différents organismes. Donc non, c'était super intéressant. Et mon dernier stage dans un plus petit cabinet en pays, plutôt pays classique, droit d'auteur, où là aussi ça s'était bien passé. Voilà, donc ça c'est mes trois stages, toujours petite structure. J'étais, pour être tout à fait honnête avec vous, moins attiré par les grandes, parce que je dirais que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, voire beaucoup trop parfois. Et j'aurais tendance à dire que j'ai pas besoin de vivre les choses pour considérer qu'il faut absolument que je les expérimente. Donc j'avais assez vite compris, c'était une époque, maintenant ça change, mais on va dire en 2007, ou 2006, ouais, 2006, j'avais assez vite compris que c'est vraiment les grosses structures, ça allait pas être mon truc, que travailler vraiment jusqu'à pas d'heure, pas connaître du tout son emploi du temps du jour, c'est pas que ça, hein. Mais on va dire que à l'époque, en tout cas, la règle c'était vous avez un anglais parfait, vous allez en grosse structure et vous travaillez beaucoup. Ça me dérangeait pas de travailler beaucoup, mais il y avait un côté, c'est vraiment beaucoup trop. Et c'est vraiment beaucoup trop, c'est vraiment c'était phénoménal. Et moi, j'avais des amis qui étaient en énorme structure que je citerai pas, quand ils ont passé le CAPA, entre les épreuves, ils retournaient au cabinet. Ils retournaient au cabinet pour faire... J'ai des amis qui faisaient 24 heures de présence dans les cabinets. Ils étaient stagiaires. Mmh. Ils se douchaient là-bas. Donc,
je ne sais pas si c'est encore d'actualité, ça, sauf dans quelques... Peut-être
non, ça n'est
quelques équipes, dans certains cabinets, dans des moments de pic d'activité particulier, mais ça, je pense que c'est...
C'est une autre époque, ouais, je pense. Ça n'allait plus trop, et puis je pense qu'il y a vraiment une bascule en ce moment. Moi, j'ai tendance à dire qu'il a fallu que toute la génération de mes amis se mette à embaucher, pour que d'un coup, ça devienne très très compliqué d'embaucher des collaborateurs. C'est vraiment terrible. Aujourd'hui, je discute avec des gens, donc des amis, qui me parlent du fait qu'ils ont un volume d'affaires qui pourrait leur permettre d'embaucher deux collaborateurs, mais qu'ils ne trouvent pas.
C'est faut nous les envoyer chez Eris et Thémis.
Je vous les ai pas envoyés directement, mais je pense que vous avez déjà réglé quelques petits problèmes pour des amis. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, il y avait une bascule. Mais c'était, quand je repense aux discussions que j'avais, les seules interrogations que j'avais avec des amis, c'était structure anglo-saxonne ou pas. Mais travailler beaucoup, ça posait de problèmes à très très peu de personnes. C'est-à-dire vraiment, c'était la règle du jeu. C'était, on y allait. Parfois, on se faisait maltraiter peut-être, mais il paraît que c'était comme ça qu'on apprenait aussi. Il y avait vraiment un côté, mais ça le reste toujours un peu. Mais vraiment, à cette période-là, personne ne se plaignait trop. Il fallait vraiment recevoir, un code sur la figure pour dire que c'était inadmissible. Mais sinon, les gens prenaient ça avec philosophie. Aujourd'hui, je pense que les mêmes choses n'arriveraient pas. C'est un peu comme si on avait décalé un petit peu le truc. Je pense que
c'est vraiment lié. Enfin, moi, je dis souvent aux jeunes, je leur dis, oui, ça change, les aspirations changent et tout. Mais le pragmatisme, et c'est peut-être cynique, fait que, personnellement, je pense qu'il suffirait d'une nouvelle crise et d'un rapport de force en termes de recrutement qui s'inverse avec les cabinets qui recrutent moins, qui diminuent leur activité parce que crise. Mince, j'ai oublié de me mettre en mode avion. Pour que, très concrètement...
Ça change.
Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, mine de rien, je pense que ça fait progresser la profession d'avocat et que ça fait progresser dans le bon sens parce que le fait que les jeunes disent « moi je veux plus ça, je veux plus ça », ça fait on réfléchit différemment à son organisation dans la structure pour pouvoir recruter. Ça fait qu'il y a les patrons qui se disent « mais pourquoi j'accepte ça ?» alors qu'en fait, les jeunes, ils n'acceptent pas. Et donc, qu'est-ce qui fait que, etc. Donc, je pense que ça va quand même... Ça apporte un changement qui est sain. Après, J'avoue, je suis sceptique quant à la pérennité de ce système après une, si jamais on a une crise économique qui nous tombe dessus. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on va dire, réjouissons-nous.
Non, c'est particulier. En tout cas, je sens la bascule. Moi, j'ai un collaborateur. C'est pas avec lui en particulier que je sens ça, mais on discute un petit peu, on parle de ses amis et je vois bien que les aspirations sont différentes. Il y a une bascule vraiment après, hein, je sais pas. Je pense que le Covid a dû jouer, j'imagine.
Ah, mais c'est clair.
En tout cas, à cette époque-là, la capacité de résistance, elle était phénoménale. Moi, je voyais des trucs extraordinaires. Les gens tenaient pour partir d'un stage final, parce que c'est très compliqué de retrouver quand on est parti. Il fallait vraiment que ce soit terrible.
Vraiment terrible.
Et alors aujourd'hui, je pense que celui qui ne voit qu'il y a un décalage entre ce qu'on lui a promis au stage final et ce qu'il voit, il part. Hein.
Ouais.
Sans problème. Il part, il trouve déjà tout de suite, parce que franchement, tout le monde galère pour trouver un stagiaire. Mmh. Il part tout de suite. Alors qu'à l'époque, vraiment, fallait que ce soit votre santé mentale soit en jeu, ouais, pour que vous partiez.
Ouais.
Et il y avait quasiment un discours. Il y a eu quelques articles sur des confrères dans des différents médias ces derniers temps. Il y avait presque. Enfin, je dis pas ça particulièrement pour moi parce que j'avais rien subi de particulier, mais il y avait presque un discours familial pour dire bon, finalement, c'est un métier dur. En fait, si c'est un métier dur, vivre un truc dur pour progresser dans ton métier, est-ce que c'est pas ça comme un passage obligé ? Plus tard, tu peut-être que tu en rigoleras. Donc je dis pas que des parents disaient ça nécessairement à leur enfant, mais j'avais vu quelques témoignages et autres qui montraient qu'il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de c'est dur, mais est-ce qu'ils sont pas tous à souffrir autour de toi de la même façon ? Voilà. Donc alors qu'aujourd'hui, je pense avec WhatsApp, avec trucs, avec des
articles,
les gens reprennent de la hauteur par rapport à ce que ça devrait être. Et puis peut-être que du coup ils se disent c'est peut-être pas normal d'être dans ces conditions-là. Je saurais pas vous dire, j'ai pas fait une analyse du marché. Je pense que c'est plus votre domaine.
En tout cas, moi ce que je trouve intéressant, c'est que, et notamment lors de ce premier stage que vous avez fait, vous en parlez comme d'en être ressorti avec cette sensation que en fait on peut faire ce métier avec une forme de légèreté, et d'ailleurs que faire ce métier c'est pas nécessairement sauver le monde, et aussi cette espèce de conscience de soi qui va pas dans le drama et qui va pas dans le besoin de se donner de l'importance, une importance qui n'y est pas.
Ouais.
Ce qui veut pas dire qu'on fait pas des choses importantes pour nos clients, mais en tout cas en les mettant dans un système de juste proportion par rapport à, que je trouve assez intéressant, parce que finalement c'est quelque chose qui ressort assez peu en fait de mes échanges, de personnes qui arrivent à dire il y a des personnes qui arrivent à dire oui, effectivement, moi mon métier, hier j'ai interviewé Pauline Rongier qui est avocate en droit pénal et qui fait quasiment exclusivement de la défense de femmes victimes de violences. Elle, son quotidien, c'est les ordonnances de protection, c'est des, et donc pour le coup il y a une conscience de son de l'importance, on va dire, de son métier,
des enjeux.
Pareil, une cliente qui fait du droit des étrangers, et quand on la questionne sur les enjeux, les enjeux, elle, de ses clients, c'est quitter le territoire, c'est se retrouver sans papier, etc. et à côté de ça, des personnes dont le métier serait peut-être un peu moins vital, on va dire, pour les personnes, pour leurs clients, ça relève peut-être un peu plus du luxe que de quelque chose d'intrinsèquement essentiel. Eh bien, j'ai assez rarement entendu des gens dire ce qu'on fait est important, mais toute proportion gardée, par rapport aux enjeux, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il m'arrive de donner des cours, et avec le temps, je pense, je donne des cours et je fais des blagues en même temps. Et l'une de mes blagues, entre guillemets, c'est de dire aux élèves, je me présente, je suis avocat, je m'appelle Cédric Parlon et tout. Alors, je fais que de la propriété intellectuelle et que des nouvelles technologies. Et je fais aucune matière triste. Et je dis, les matières tristes, c'est pas qu'elles sont tristes par nature, mais finalement, quand c'est trop triste, je décroche. Donc, tout ce qui est droit de la famille, divorce, pénal, je ne sais pas faire. J'ai des confrères qui savent faire, qui, du coup, je les laisse faire, parce qu'en plus, je leur donne ma part, donc ils sont heureux. Mais je ne sais pas faire. Et en fait, en réalité, je leur dis parfois, pour le pénal seulement, mais je ne le pense pas, ce que je vais vous dire, je leur dis parfois pour le pénal, Mais je leur dis, en plus, j'ai un problème, c'est que je veux tout tellement avoir raison que je pense que je serais capable de dire n'importe quoi. Et donc, du coup, vaut mieux pas que je me frotte à ce type de matière, parce qu'en fait, on m'attendrait à la sortie de l'audience pour me mettre dans un coffre directement, et donc je préfère ne pas y toucher. Et en réalité, non. Je trouve que pour le peu que je fais, en matière propriété intellectuelle, quand je dis pour le peu que je fais, il y a des implications pour tout le monde, il y a de l'argent en jeu et tout. Même dans ce cadre-là, j'arrive à avoir des échanges ultra marqués au niveau de la décision de justice. Je vois bien que les gens sont touchés. Au niveau de la négociation, je vois bien qu'ils sont touchés. Je me dis, mais qu'est-ce que ce serait si c'était des matières à fort enjeu ? Je pense que je suis pas sûr, très honnêtement. Je pense qu'il faut avoir des qualités pas supérieures, mais que j'ai pas en réalité. Je pourrais pas et interagir avec des personnes tous les jours sur leurs problèmes, avec une volonté pour eux d'en parler. Et être complètement bien dans ma matière. Je pense que votre podcast, c'est est-ce que vous êtes bien dans votre robe et autres. Je pense qu'en réalité, moi, je pense que je suis bien dans ma robe, dans ma façon d'exercer ce métier. C'est-à-dire qu'en réalité, vous me donnez une autre matière, tout aussi rémunératrice, mais que j'aime pas. Je suis pas sûr de faire votre podcast en disant oui, j'aime. Ce qui compte pour moi, c'est être avocat. Je suis absolument pas sûr de ça. Donc, l'une des choses dont je suis le plus fier finalement au bout d'un certain temps, c'est juste d'avoir cette hyper spécialisation et finalement une façon d'exercer mon métier que je souhaite, quoi, uniquement. C'est-à-dire que finalement, j'ai des échanges avec des confrères très souvent hein, sur alors du coup ça va, t'es comment ça se passe ton activité? Alors je dis bah, je suis débordé. Alors c'est vrai que je suis débordé, mais bon, j'essaye de pas trop l'être parce que je veux garder du temps pour moi. Et ils me disent, mais c'est une bonne nouvelle du coup. Et on est dans un métier où en fait on dit aux gens je suis débordé, sous-entendu je suis débordé, mais pas pour se la péter, juste pour dire c'est compliqué en ce moment. Et en fait la réponse c'est super. Alors que très honnêtement, avec mon collaborateur, ce qu'on se dit souvent, c'est quasiment « gardons-nous ». Alors, on ne dit pas « gardons-nous du temps ». Mais en gros, on sait très bien que si on se charge à 100% sur une semaine, puisqu'il y aura de toutes les façons d'autres demandes que celles qu'on doit gérer, ça va devenir inconfortable. Et moi, ce que je souhaite, ce n'est pas d'être inconfortable. Je pense qu'en réalité, je n'aime ce métier uniquement parce que il y a une histoire de zone de confort, que parce que j'arrive à gérer le flux entrant et à le faire d'une façon que j'aime. Vous me donnez, je sais pas moi, 50% de clients de plus, la même configuration, c'est-à-dire moi et mon collaborateur et un stagiaire, je pense que
j'aime plus
je vais plus, je vais, je pense que je n'aimerais pas longtemps en tout cas. L'avantage, c'est que l'histoire a montré que je sais m'adapter, c'est-à-dire que en réalité, si vous avez plus de flux entrant, c'est que vous avez plus d'argent et que sauf à ce que votre objectif de vie soit d'être le plus riche du cimetière, normalement, vous devriez pouvoir vous adapter. Et moi, c'est encore un autre débat que j'ai souvent avec des confrères, c'est j'ai un autre truc, c'est on se compare souvent entre hommes, pas tout le temps entre hommes et femmes, sur combien de collaborateurs tu as, et puis en fait, c'est le nombre de collaborateurs qui détermine quasiment
si c'est une réussite ou pas.
Moi, j'ai dans mon domaine, alors un peu moins mon domaine, parce qu'on fait beaucoup d'e-réputation dans le cabinet, donc droit de la presse, appliqué à Internet, des personnes qui sur Twitter se lâchent et sur Google My Business et compagnie. Et dans mon domaine d'activité, comme mon mentor au début, quand j'ai été élève avocat et que j'ai fait un stage, c'était des petites structures. Donc moi, j'ai absolument pas de problème à voir des gens cartonner, tout en étant en petit. C'est consubstantiel quasiment de ma matière. Il y a des confrères, que ce soit Richard Malka, en droit de la presse, ou d'autres, qui ont des structures, mais d'une rentabilité que je devine folle, parce qu'ils ont des clients extraordinaires. Ils sont 2-3. Et je ne pense pas que leur objectif de vie soit d'être à 50. Et pourtant, je pense que leurs clients, qui sont là depuis 30 ans, sont ultra satisfaits de leur travail.
Eh ben ça, c'est sûr que si on devait mesurer la réussite d'un cabinet à son nombre de collaborateurs, je suis pas sûre qu'on s'en sortirait. C'est sûr que ça. Enfin, je veux dire, c'est sûr que a priori, s'il y a beaucoup de collaborateurs, c'est qu'il y a beaucoup d'activités et donc que c'est une activité qui se développe bien. Après, moi, j'ai été dans une équipe où franchement, on était trop par rapport au flux de dossiers qu'il y avait. Et quand j'en suis partie, j'ai été remplacée par deux personnes. Et je suis intimement convaincue que c'était juste une histoire d'ego. C'était juste une histoire de dire non, mais j'ai une grosse équipe. Ouais. Et il se trouve que la rentabilité de l'équipe était bonne, donc en fait, elle permettait d'avoir pas mal de charges au niveau du nombre de collaborateurs, d'avoir pas mal de charges RH. Mais sur le papier, c'était absolument pas justifié. En tout cas, pas à ma connaissance de potentiel dossier qui allait rentrer. Et je pense pas, si ça a été absorbé, je pense pas que ça a été absorbé de façon immédiate. Et voilà. Et donc, c'est certain qu'il y a des personnes dans cette profession qui confondent, mais pas que dans cette profession. Hein, je pense que c'est la même chose dans l'écosystème des startups où il y a cette espèce de mythe à la levée. Donc, combien t'as levé, ça devient, voilà. Et puis ensuite, du coup, derrière, au nombre d'embauches qu'il y a eu en 6 mois, etc., comme si c'était un critère déterminant de réussite d'une entreprise, alors que ça peut être aussi une croissance pérenne.
Être, moi je dis ça et en même temps je peux prêcher. Moi c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que finalement il y a une question de tempérament. J'ai des amis très proches qui me disent, en gros, qui sont toujours dans le coup d'après. C'est-à-dire qu'en fait leur raisonnement c'est de dire, ok, j'ai besoin de collab, mais comme je chasse des clients en permanence, il faut que je me dise que le troisième est nécessaire. Et donc je vais me donner envie d'aller chercher des clients.
Ouais, mais ça c'est différent parce que ça veut dire qu'on a déjà besoin de 2 collabs.
Oui.
C'est-à-dire qu'on pourrait absorber 2 collabs et avoir de façon entre guillemets prospective un troisième qui va venir décharger quand il y a un surplus d'activité et être disponible pour quand.
C'est vrai.
Voilà, mais c'est pas actuellement j'ai pas besoin de 2 collabs. J'ai éventuellement besoin d'un collab ou d'un demi collab en plus. Mais en fait, j'en prends quand même 2,5 en plus parce que parce qu'en fait, ça fait chic, quoi.
C'est sûr.
Fait imposant.
Après, c'est là où c'est rigolo, c'est que finalement, c'est un métier où on peut, si on se débrouille bien, marger beaucoup. Et c'est finalement le boss qui décide d'une certaine manière ce qu'il veut. Mais j'aurais tendance à vous dire, et une partie de ce que je parce que j'ai été finalement, je me suis installé, on n'a pas eu le temps, on en reparlera.
On va en parler, ouais.
Mais en gros, l'idée, c'est que vous avez un peu deux types, on va caricaturer un petit peu, deux types d'avocats. Vous avez ceux qui se disent, je vais tenter de m'adapter à la situation que je vis. Et ceux qui se disent, de toutes les façons, la plupart du temps, les gens qui ont réussi sont des gens qui ont pris des risques. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez passer votre temps à prendre des risques. Et ils ont presque raison. C'est-à-dire qu'au fond, si vous, l'instinct de survie de l'être humain a ceci de particulier, que si vous prenez des risques financiers en permanence, vous allez bosser beaucoup. Hein. Mais vous pouvez même vous en sortir, parce que c'est un métier où rentrer des clients, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il faut juste bosser beaucoup. C'est juste une condition sine qua non. Si vous voulez dédier votre vie au travail, vous pouvez très bien réussir, mais il faut travailler énormément. Donc, faut être, si vous êtes en contentieux, vous prenez tous les contentieux de la planète. On vous dit 5 000, 4 000, 3 000, 2 000. Allez, hop, on rentre. Et on y va. Et on y va, mais bon, il va falloir être aux audiences après. Donc, on va dire que... Je sais pas que je comprends, parce que c'est pas mon tempérament, mais... Je sais qu'une partie de mes amis, dans le défi qui se lance sur « je veux un collab, je veux ci en plus », il y a un côté « si jamais je ne fais pas ça, je vais m'endormir ». Et en plus, je trouve que c'est le truc le plus classe possible que de prendre des risques. Et donc, du coup, ils prennent des risques.
Ouais, non mais cela dit, moi, je les comprends 1000 fois. Enfin, je veux dire, moi, le moment où j'ai ma première entreprise qui a commencé à vraiment bien tourner, j'ai dit « tiens, et si je crée une deuxième entreprise et voilà, et 6 mois plus tard, je suis en mode, mais pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, donc je comprends très bien cette tendance à aller vers le déséquilibre comme une sorte de manière d'exister. je le comprends très bien. c'est un truc à gérer avec un psy d'ailleurs plutôt qu'avec un avocat. Mais en tout cas, je comprends très bien ce genre de profil. En tout cas. Pour en revenir à vous, votre parcours, vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas cette, vous n'étiez pas dans cette recherche de, enfin que vous arriviez à vous débrouiller pour gérer le flux, histoire de pouvoir maintenir, au contraire, vous, un équilibre qui fait que globalement ça vous convient. Et donc j'étais curieuse de savoir cette gestion du flux. Comment est-ce que vous faites ? Est-ce que les choses se font naturellement relativement bien dans le sens où vous avez rarement des moments où tous vos clients vous tombent dessus et il y en a trois nouveaux en plus et ils veulent tous pour après-demain un contrat ? Mmh. Ou est-ce que c'est que globalement, vous avez un rapport avec vos clients qui fait que vous arrivez à négocier les dates délivrables et à en fait plutôt bien négocier le flux de travail aussi avec eux. Comment vous vous débrouillez en fait pour gérer ce flux de travail ?
Alors, je triche un peu. Alors, je vais dire un petit peu la sauce interne. Je triche un peu. C'est-à-dire qu'au fond, je fais on va dire 70% de conseils, 30% de contentieux. Si vous faites 100% de contentieux, ce que vous dites, être harcelé par des clients qui appellent tout le temps et tout, c'est votre quotidien. C'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez pas devancer. Qui va vous appeler ? Est-ce que c'est le client ? Est-ce que c'est le confrère ? Est-ce que c'est le tribunal ? Bref, ça peut être tout le monde. Ça peut être n'importe quelle analyse de documents. Alors que le conseil, on est dans quelque chose, normalement, que vous savez faire et que vous pouvez produire si vous voulez passer 5 heures à rédiger un contrat, là, tout de suite, entre maintenant, dans 18h et 23h, parce que vous savez que demain, vous avez d'autres choses à gérer, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous passez la nuit à rédiger un contrat. Le lendemain, vous l'avez livré. Vous ne le livrez jamais complètement le lendemain, vous en discutez avec votre collaborateur, mais vous pouvez le livrer. Donc, une partie de ce qui m'aide à gérer le flux entrant, c'est cet alliage qui fait que c'est plutôt du conseil ma principale activité. C'est-à-dire que le conseil, finalement, si vraiment vous rentrez les dossiers que vous savez maîtriser, ça vous prendra du temps. Parce que c'est, contrairement à ce qu'on pense, les contrats, ce n'est pas des modèles, bon bref, ça vous prendra du temps. Mais c'est un temps où le client, finalement, il ne vous challenge pas. Il vient pour apprendre. Ça, c'est en ça que ça ressemble à donner des cours. C'est qu'il vient pour apprendre des choses. Et à la limite, il pourrait être livré d'un contrat nu. Il serait content aussi. C'est même vous qui lui dites, non, mais de toute façon, moi, j'ai des clients qui me disent, faites un contrat simple. Je dis, non, mais il ne faut pas qu'il soit simple. Il faut qu'il vous back sur tous les aspects. Et donc, finalement, la façon de gérer parce que ce qui arrive au dernier moment, c'est rarement du conseil, c'est plutôt du contentieux. C'est-à-dire que quelqu'un va vous appeler en disant « je veux attaquer telle personne le plus rapidement possible ». Ben, du coup, quand vous avez du conseil dont vous maîtrisez le timing, parce que vous savez pertinemment que vous pourrez le livrer vite, en un jour et demi, c'est plus facile de gérer les 30% de votre activité où d'un coup il y a des urgences. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, après, on triche un peu aussi, c'est que selon la façon dont on est chargé, il y a des clients qu'on prend au téléphone en leur expliquant assez rapidement que soit s'il n'y a pas possibilité d'agir, on va leur donner gratuitement le petit conseil comme quoi il n'y a pas de possibilité d'agir, ou soit on va leur dire, on va un peu adapter notre échange avec eux à notre état de recherche. On va dire, oui, on peut intervenir pour vous, mais c'est à ces conditions-là. Dans ce délai-là, et il faudra payer telle partie, voire la totalité, tout de suite. Et finalement, on obtient un non
qui
était presque recherché. Ça nous arrive, pour être tout à fait honnête, ça nous arrive pas souvent, mais on va dire que on n'est pas toute personne qui nous appelle au cabinet n'est pas nécessairement un client. Parfois, c'est là pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu une personne au téléphone qui me demandait, elle était mannequin pour un clip, elle voulait lui rédiger un contrat. Donc assez rapidement, j'ai essayé de lui faire comprendre que la personne qui devait financer la rédaction du contrat, c'était pas elle. Parce qu'elle, en fait, elle était payée pour apparaître dans le clip, mais qu'elle devait pas, c'est pas elle qui devait solliciter la rédaction de l'acte. Ça m'a pris même pas 5 minutes. Elle a fini la conversation en me disant « Ah, mais je garderai vos coordonnées ». Elle était très contente. Et moi, je suis très content. Je lui ai donné un conseil rapidement. Je ne pense pas qu'elle avait vocation. Je n'aurais pas été particulièrement à l'aise à l'idée de rédiger un contrat pour quelqu'un qui n'avait pas vocation à en avoir besoin. Et donc, c'est ce qui peut nous arriver. C'est-à-dire, assez rapidement, dire à des personnes bah, « Là, tout de suite, ça ne sert à rien ». On préfère quasiment donner le conseil comme quoi c'est pas utile, ce qu'on aurait pu faire dans une consultation, dans un état de charge important, que faire une consultation tout court, quoi. Voilà.
C'est un truc dont je parle souvent avec mes clients quand on parle du premier rendez-vous gratuit, des conseils gratuits et tout. Je leur dis, en fait, je trouve que ce qui montre qu'à un moment, le conseil en tant que tel, ça peut devenir presque plus une accroche commerciale, entre guillemets, que la chose qu'on va facturer, sauf sur certaines problématiques qui sont hyper, hyper pointues et où il y a, enfin, on peut pas juste donner un truc comme ça, mais c'est que c'est la première chose qui saute quand on est en surcharge. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où on est en surcharge de travail, dire à quelqu'un, tu vas payer pour que je te dise si oui ou non ça vaut le coup d'aller en litige, ou si oui ou non ça tient la route tel truc, ou si oui ou non il faut faire ceci ou faire cela. En fait, c'est vraiment le premier truc qui saute, et c'est le moment où juste on prend les gens, on dit oui, hein, là il faudrait faire ça. Globalement, on va le faire comme ça, je peux le faire pour toi, pour ça, éventuellement, je peux te le faire pour tant. Et en fait, finalement, ce qu'on va facturer, c'est la réelle prestation derrière, c'est tout pas juste fait. L'input, en fait. C'est
exactement,
pas juste le...
exactement.
Et je trouve que c'est, finalement, c'est assez révélateur de d'à quel point est-ce que ça vaut le coup de s'enquiquiner à négocier avec les gens qui payent un conseil qui, en fait, ils voudraient juste avoir la réponse en 5 minutes au téléphone.
C'est ça, c'est ça.
Plutôt que juste donner et se concentrer sur autre chose parce qu'il y a toujours d'autres choses à faire.
Non, mais c'est clair. Donc, on a un peu cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'au finalement, on n'a pas les dossiers coûte que coûte, d'autant qu'on sait très bien. Moi,
On est mardi.
Hier, j'étais persuadé que j'avais de la disponibilité complètement folle cette semaine, parce qu'on s'était organisé pour tout finir de beaucoup de dossiers qu'on avait à traiter. J'ai passé toute cette journée à me dire, mais c'est passé vite l'impression que j'avais hier. Et pourquoi ? Mais parce qu'il suffit que 3 clients vous appellent, on est une structure avec 2 avocats, 3 clients vous appellent pour vous dire, je vous valide finalement ce dont on parlait depuis hier, depuis quelques jours, pour que d'un coup, tout devienne important. Et souvent, c'est du contentieux, du coup, cette fois.
Ouais.
C'est du contentieux où il faut délivrer quelque chose à semaine prochaine sur un document, une analyse, sur une stratégie. Et là, d'un coup, toutes vos journées sont pleines avec ces clients-là jusqu'à lundi prochain. Voilà. Alors que, franchement, hier, j'étais persuadé que
cette semaine, ça allait être
des contrats. Et d'ailleurs, si je peux vous donner un exemple, j'ai gardé de cette histoire de thèse un peu une volonté d'écrire et d'écrire des articles de vulgarisation. Donc j'ai un site internet où j'écris des articles, j'avais un blog avant. Et beaucoup de clients me contactaient par ce blog, parce qu'ils disaient, ils tapaient sur internet, je sais pas moi, genre un truc en diffamation, comment attaquer une personne en diffamation ou en droit d'auteur. Ils tombaient sur l'article et ils m'appelaient. Et le bon révélateur pour savoir à quel point on est débordé au cabinet, c'est que j'adore écrire, mais ça fait un petit moment que j'ai pas écrit d'article. Et donc du coup, à chaque fois je me dis, hier je me disais, tiens,
on va essayer d'écrire
des articles. Bon, ben là, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit. Et mes semaines, depuis à peu près 2 ans, pas seulement 2 ans, mais depuis au moins 2 ans où j'ai un collaborateur, c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on promet des articles, même à des revues. On galère pour trouver un petit moment pour l'écrire, alors qu'on adore ça et que c'est du pro bono. Hein, mais la seule chose sur laquelle on arrive à s'entendre et j'en arrive à le faire, c'est qu'on promet des conférences, on fait des conférences pour des structures, même pro bono parfois, donc et on les fait parce que finalement la date arrive, il y a trop de monde, il faut bien qu'on le fasse et à ce moment-là on débloque du temps. Mais souvent vous priorisez le facturable au non facturable.
Et si on revient un peu sur votre parcours. Après, qu'est-ce qui s'est passé une fois le CAPA en poche ? Comment vous avez trouvé une collaboration ?
J'ai trouvé une collaboration assez rapidement. Je me rappelle que c'était... donc, admettons, je suis en stage final. Ça se finit en juin. Je candidate dans un cabinet spécialisé en conseil. Un conseil très particulier en informatique. Et je leur dis, voilà, j'ai plutôt un profil contentieux. Parce que j'avais plutôt fait du contentieux en stage. Et ils me prennent, ils me promettent une embauche en mai pour un stage qui finit en juin par ailleurs, et une embauche pour octobre. Et du coup, j'intègre ce cabinet en octobre, après la prestation.
C'était une candidature spontanée ?
C'était une candidature spontanée.
Parce que vous aviez identifié ce cabinet par rapport à sa niche d'activité ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il y avait toujours déjà Legal 500 à l'époque, ce type de truc, ils étaient dedans. Et je m'étais dit, je vais candidater. Et puis, je pense que c'est exactement ce qu'ils m'ont dit à l'époque. Ils étaient spécialisés en conseil et ils trouvaient assez rigolo le côté, moi, je conseille, je débute. Mais j'adore le contentieux. Ils avaient très peu de... Ils avaient à gérer du contentieux, mais qu'ils externalisaient. Et ils m'ont dit, j'étais junior, hein, « Bon, ben, vous allez le faire, alors, du coup. » Et j'ai trouvé ça intéressant. Et rétrospectivement, je sais que je n'aurais pas fait ce cabinet-là. Je ne sais pas si je me serais installé si tôt. Je me suis installé au bout de 2 ans. Je ne sais pas si je me serais installé si tôt. Parce qu'ils m'ont donné un peu carte blanche sur le côté « Du coup, vous dites que c'est votre truc, c'est le moment de le prouver.
» Oui, ils vous ont laissé une marge de... De liberté et d'autonomie intéressante. Quoi.
C'est ça.
Et donc, ce cabinet, vous y restez 2 ans.
2 ans.
Et vous y faites, comme vous dites, du contentieux. Mm-hmm. Ça s'est effectivement développé ?
Ça s'est effectivement développé. En fait, c'est naturel parce que vous ne pouvez pas faire du conseil sur des gens qui... Quand les gens viennent vous voir pour du conseil, c'est parce que c'est l'antichambre du contentieux. C'est soit qu'ils veulent devancer un problème, ce qui est très bien, mais en France, on n'aime pas trop devancer les problèmes. On pose des questions souvent qui sont des questions quasiment précontentieuses d'une problématique. Et quand le contentieux arrivait, ils avaient tendance à l'externaliser. Du coup, j'arrivais un peu, entre guillemets, tenter de leur expliquer, pas vraiment leur expliquer, mais interagir avec eux et internaliser cette problématique.
Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes installé si vite ?
En fait, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'au fond, j'étais très bien dans ce cabinet, il y a eu une nouvelle arrivée, un changement pas d'équipe complètement, mais une nouvelle arrivée qui a fait que je pense que je m'entendais moins bien avec les nouveaux arrivants. Et puis, chemin faisant, on s'est à peu près rendu compte que ce qui était ma liberté, en fait, était devenu un peu le problème. J'étais très bien libre à gérer ces problématiques-là, mais on va dire que ça a fini par générer des crispations, un peu comme si on avait créé un monstre, en fait. Et donc, on s'est décidé, d'un commun accord, mais pas complètement, à arrêter là, parce que ça fonctionnait plus. Et donc, je suis parti. Et c'était l'occasion après de s'installer, parce que c'était tôt, 2 ans. Très honnêtement, à une autre époque, peut-être que 2 ans maintenant, ça paraît super, top. Mais à l'époque, en tout cas, j'avais quelques amis qui s'étaient installés plus tôt, dont un ami au bout de 3 semaines, et un autre qui avait une clientèle pas mal et qui s'est installé tout de suite. Vraiment, il avait une proposition... super de collab, il avait dit non, il avait vraiment, ça c'est des opportunités, hein. J'appelle ça des clients magiques, c'est-à-dire qu'il avait un client qu'il avait développé en étant en PPI chez lui, et il lui donnait l'opportunité de s'installer tout de suite, donc j'avais deux, à part moi, dans les gens que je fréquentais, il y avait juste 2 personnes qui avaient 3 semaines et l'autre directement l'installation, donc c'était un peu nouveau, mais toute la liberté qu'on m'avait donnée dans la collab, c'était pour moi le moyen de voir si je pouvais gérer le client. On me laissait gérer le client directement. C'est-à-dire ça arrive peu en grande structure. Il y avait une problématique, j'avais le client au téléphone. Et donc, du coup, c'était très intéressant parce que je me disais, mais alors, si c'est moi qui dois le faire, pour moi, est-ce que je saurais le faire ? La réponse, je pense que c'est oui. Parce que du coup, j'avais quelques compliments de clients. C'est un peu d'ailleurs.
Oui,
ça.
Des choses qui donnent confiance en soi.
Des choses qui disent, en tout cas en situation, qu'est-ce qui me manquerait pour le faire moi-même ? Il me manquait plein de choses. Hein. Très honnêtement, 2 ans, c'est tôt. Mais qu'est-ce qui me manquerait pour le faire moi-même ? Des choses, sûrement, de l'expérience. Mais en tout cas, en gestion pure de clients, ça pourrait se faire.
Et ça s'est fait. Ce fameux client ou ces fameux clients pour le premier cabinet que vous gériez finalement avec beaucoup d'autonomie, vous ont suivi ?
Non, parce que du coup, c'est particulier, mais ça ne se fait pas, tout simplement, d'envisager de partir. Et puis, ils venaient pour un peu la marque, en fait. Donc, je pense qu'ils étaient juste trop gros pour envisager de partir avec qui que ce soit. Donc, la question ne se posait pas... frontalement. Je pense qu'il y avait presque un risque, presque déontologique, à envisager de dire « salut, mais par contre, je pars avec eux ». Mais pour être tout à fait honnête avec vous, en tout cas, j'avais de très très bons rapports avec certains. Et une des crispations, c'était ça. Quand je lui dis une partie de créer un monstre, c'est qu'on vous donne de la liberté. La contrepartie de la liberté, c'est... c'est que parfois, en fait, vous êtes peut-être un peu plus libre que ce que les personnes avaient envisagé. Et donc, ça peut être une source de crispation, ce que je comprends tout à fait, d'ailleurs. C'est-à-dire que finalement, moi, ça m'a donné en tout cas l'envie de repartir avec mes clients. Et j'avais eu une opportunité, alors c'est comme ça, il y avait vraiment des concours de circonstances. Un peu avant de partir de cette collab, peut-être 3 mois avant, j'avais une opportunité pour donner des cours. Et je trouvais ça déjà très intéressant d'en donner. Et c'était en école de commerce et en école d'ingé. Et j'avais dit oui. Donc, quelques temps dans ma collab, je partais donner des cours. Et j'étais, on va dire, correctement payé dans ma collab, mais ce n'était pas phénoménal. Et cette opportunité, quand je me suis installé, cette opportunité de cours, j'en ai donné beaucoup plus. Et assez rapidement, les cours, c'était à peu près ce que je gagnais en collab, mais sur un temps beaucoup plus resserré.
Ouais.
Donc, du coup, j'avais cette... en m'installant, en fait, j'avais ce côté...
je travaille moins, je gagne autant, et du coup, ça laisse du temps derrière pour...
Pour rédiger les cours, déjà, parce qu'il fallait les rédiger. Mais c'était assez rigolo, parce que je me dis... Oui, c'était j'avais un peu un client magique, ce fameux client magique. J'ai un client magique, c'était cette école de commerce. Et donc, du coup, je me présentais devant des personnes, je présentais un cours structuré. Donc, j'étais plus dans l'oralité. Donc, j'interagissais devant ces personnes. C'était super intéressant et c'était rémunérateur. Donc, aujourd'hui, j'en donne toujours en plus, hein, mais... je sais que ça m'a aidé, en tout cas, à me dire tu rentres quelques clients plus les cours, tu pourras en vivre très bien. Et en plus, l'exercice me plaisait. Moi, franchement,
tellement que vous continuez encore aujourd'hui.
Je continue. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai des échanges avec des amis qui savent que je suis passionné par le fait de donner des cours. Et qui me disent toujours, mais tu les donnes toujours. Et je dis, ben oui, mais parce que j'aime ça. Mais oui, mais si c'est pas rentable. Je dis, mais ça n'a rien à voir. En réalité, j'aime le faire. Je trouve ça super. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que on est dans une profession où on aime bien pas cataloguer les personnes, mais dire, mais si t'es avocat, le truc doit te suffire. Moi, en réalité, je suis avocat. Je donne des cours, donc je considère pas que l'un, je considère que les deux m'intéressent. Et puis voilà. Et par ailleurs, j'écris des articles. Et par ailleurs, j'ai d'autres passions. Je trouve que en réalité, c'est se limiter que de dire on ne peut faire qu'une seule chose. Si on a envie de faire une seule chose, on en fait une. Si on a envie d'en faire plein, on en fait plein.
Et qu'est-ce qui vous plaît autant dans l'enseignement ?
Alors, j'aime bien les échanges. Aujourd'hui, je le fais pour moi parce que je trouve que c'est sympa. J'aime bien prendre la parole, j'aime bien répondre à des questions. En réalité...
En plus, c'est même pas, j'allais dire, parce qu'il y a des avocats qui continuent à enseigner parce que c'est un biais de recrutement. C'est-à-dire que, ils le font clairement pas pour la rémunération du cours. Ils le font parce que c'est un moment où ça leur permet d'être en contact avec leur stagiaire de l'été prochain et de faire rayonner aussi leur marque d'employeur. Oui. Et donc, il y a ça. Et en fait, vous, c'est même pas le cas parce que vous donnez des cours auprès de publics d'ingénieurs qui vont a priori pas rejoindre votre cabinet comme stagiaire ou comme...
Oui, alors vous dites a priori, c'est rigolo, je peux vous raconter une anecdote sur ça. Je reçois, j'ai des stagiaires depuis un petit moment déjà. Je reçois une stagiaire, maintenant elle est à l'école d'avocat, donc on va dire il y a 3 ans. Et elle me dit, c'était son M, hein, je crois, à ce moment-là. Elle me dit, elle insiste beaucoup pour que je la prenne en stage. Donc je lui dis, écoutez, on peut essayer un stage l'été. Je la reçois ici, ça se passe bien. Je lui dis, écoutez, on va commencer un stage cet été. Et elle me dit, je peux vous confier quelque chose? Je lui dis, oui. Elle me dit, c'est un élève d'une école d'ingénieurs qui m'avait parlé de vous. Okay. Et qui m'avait dit, va voir Ed Parlon, il est rigolo. Bon, bref, parce que je fais quelques blagues, on va dire ça comme ça. Il est rigolo, il a l'air sympa. Ça se trouve, le stage te plairait. Et donc, à ce moment-là, j'ai un stagiaire en stage final qui est mon collab actuel. Donc, c'était en 2020, pour être précis. Enfin, ou non, 2019, peu importe, 2020. Je rentre dans le bureau, je le vois, et je lui dis, ce qui est rigolo, c'est qu'elle me dit que C'est un de ses amis qui lui a dit de candidater au cabinet et il me dit je vous l'avais jamais dit, mais en fait, moi aussi. C'est mon meilleur ami qui vous a eu en cours en école d'ingé qui m'a dit candidate.
Ah, c'est hyper intéressant.
Et donc, c'est vraiment son meilleur ami. C'est-à-dire, j'ai échangé avec lui, le fameux meilleur ami, récemment. Il m'a dit mais c'est bien, il paraît qu'il se plaît et tout, machin. Et donc, lui aussi. Bon, alors, combien sont-ils en tout? Je ne saurais pas vous dire, mais lui aussi,
c'était Marcel. N'empêche que ça fait deux.
Dont mon collaborateur, donc c'est rigolo. C'est, mais je ne le fais pas pour ça. Ouais. Je le fais parce que l'exercice me plaît, parce que ça vous fait une bouffée d'oxygène dans ce métier. Sinon, quand vous faites du conseil, votre journée, elle est au téléphone ou à rédiger des choses derrière un ordinateur. Là, vous allez ailleurs, vous discutez avec des gens, les questions ne sont pas prévues. Et je trouve que donner des réponses à des personnes qui sont béotiens en droit, je trouve ça super intéressant. Super intéressant. J'aime bien l'exercice, quoi, tout simplement. Et accessoirement, je donne beaucoup plus de cours en école d'ingé aujourd'hui qu'avant. Il y a aussi un intérêt pratique, c'est que les ingénieurs, par exemple en cybersécurité, quand vous êtes en nouvelle technologie, ils vous apprennent des choses. C'est-à-dire que vous leur dites factuellement, le droit vous oblige, quand vous avez une faille de sécurité, à déclarer à la CNIL la faille de sécurité. Et l'ingénieur, il vous dit, OK, bon, enfin, quelle faille? Parce que moi, des failles, j'en ai tout le temps. Donc, quelle est la faille que je déclare? Parce que moi, je vais déclarer tous les jours dans ces cas-là. Et donc, vous lui dites, très bien.
Regardons les failles.
Les failles, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. Vous, on vous dit de signaler les failles majeures. Il me dit, oui, mais alors, majeur, c'est quoi? Et donc, moi, de lui dire, je vous le dirai comme pour un client, la loi ne vous dit pas ce qu'il faut déclarer ou pas. Ne prenez pas le risque de décider tout seul ce qui est majeur ou ce qui ne l'est pas. Dites à la CNIL assez régulièrement ce que vous pensez être majeur ou pas. Et je pense qu'à un moment, à force de recevoir des messages de votre part, la CNIL finira par vous dire «
Détendez-vous.
Vous y allez trop, je préfère vous dire de vous détendre. » Mais vous ne pouvez pas présupposer, tout seul comme un grand, que ce n'est pas majeur. Parce que malheureusement, si elle débarque et elle vous dit « Pourquoi vous n'avez pas signalé ?», vous ne pourrez pas vous en sortir en disant « Mon arbitrage était celui qui valait. » Voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce que finalement, pas vous découvrez, mais vous êtes en contact avec quelqu'un qui est du métier et qui vous dit, au-delà de la théorie, on en revient à la théorie, là, la pratique, au-delà de la théorie du droit, il y a aussi ma vie de responsable cybersécurité d'un groupe. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, moi, il m'arrive d'interagir avec des clients qui sont dans le droit de l'informatique. Dans l'informatique, et j'ai le vocabulaire de quelqu'un qui serait un peu ingénieur, il le remarque, et il me demande, vous savez coder? Je dis pas du tout, mais je leur dis pas comment je sais tout ça, mais ils se disent, OK, il a notre vocabulaire.
Et pour en revenir à votre développement, donc vous dites, avant de quitter votre collaboration, vous aviez commencé à donner des cours, ce qui vous a un peu... aussi, vous vous êtes dit, c'est un client... ça correspondait à un moment où avec le cabinet, ça se tendait et donc vous vous installez. Au début, il y a ces cours qui, du coup, permettent au cabinet de démarrer. Et ensuite, l'activité plus de conseil, les clients plus pour la vie d'avocat stricto sensu, on va dire. Comment est-ce qu'ils sont venus?
Par les articles, justement. Je vous parlais des articles. Par les articles, j'ai créé un blog. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé par ce biais-là. Alors,
donc, vous avez créé un blog à ce moment-là, où vous parliez de problématiques en matière de...
Exactement. Je donnais d'articles de vulgarisation en matière de droit d'auteur, de droit de l'informatique, de diffamation, injures et autres, donc Internet. Et par ce biais-là, des personnes m'appelaient. Et aussi, par le biais du réseau, j'avais, parce que différents PPI, j'avais des personnes qui m'appelaient également. Donc, c'était un peu le bouche-à-oreille, mais pas qui vient comme ça dans l'absolu, parce qu'en fait, le bouche-à-oreille, ça peut être tout. Mais c'était un bouche-à-oreille un peu ciblé. Je crée des contenus. Les gens se disent, alors je pense que c'est ça, je présuppose, on n'a pas un débriefing ensemble de la question, mais je pense que les gens se disent, OK, il nous en a dit suffisamment pour qu'on se dise que...
Il sait de quoi il parle.
Il sait de quoi il parle, et puis il en dit tellement que ça se trouve, si on l'appelle, il va en dire encore plus. On présuppose, parce qu'il y a articles et articles, moi je vois beaucoup d'articles, on sent bien que le truc c'est, on veut vous appâter sans vous donner tout. Moi j'avais le présupposé que si je donnais tout, quasiment, pas tout, mais beaucoup, on m'appellerait. Et ben, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au fond, j'écrivais des articles, j'avais des personnes au téléphone qui me disaient « Oui, alors, pour la notification de contenu illicite... » Et je me disais « Soit la personne est un juriste, soit elle a lu mon article. » Je dis « Vous avez lu mon article ?» Il me dit « Oui, oui, c'est exactement ça. Donc, je vous appelle. Comment on peut faire pour... comment vous pouvez faire pour m'aider ?» Donc, le conseil, c'était beaucoup de relationnel que j'avais eu par ailleurs. Et le contentieux, c'était beaucoup les articles. Mais pas, oui, pas que, mais c'était beaucoup les articles. Donc...
De toute façon, franchement, je trouve que, en fait, quand on s'engage dans cette démarche de créer du contenu, je trouve que le fait de créer du contenu radin, c'est contre-productif. Parce qu'en fait, le cliffhanger, il n'est pas là, quoi. Enfin, dans le sens, c'est pas parce qu'on donne un peu les grands basiques et qu'on dit bah, pour en savoir plus, premier de consultation.
Bien sûr.
En fait, je trouve que c'est beaucoup plus productif de vraiment genre, donner la matière et de montrer à l'autre à quel point... En fait, vas-y, je t'ai tout donné. En fait, tu peux gérer tout seul. Et finalement, presque le fait de dire « Moi, je t'ai tout donné. Si tu veux gérer tout seul, vas-y, gère tout seul. » Et en fait, la personne, elle se rend compte qu'elle galère, même si elle a tout. Que c'est pas pour ça qu'elle arrive à adapter le document, le modèle. Que c'est pas pour ça qu'elle a pas de questions sur des sortes de qualifications et tout. Et finalement... rendre la personne quasiment autonome par rapport au sujet et du coup lui permettre presque de se dire bah ouais je vais me chauffer je vais le faire, mais c'est la meilleure manière de la mettre face à sa propre humilité de ouais non en fait malgré tout ça j'ai quand même des questions et je voudrais quand même être accompagnée.
C'est ça, et c'est souvent ce qui arrive d'ailleurs.
Ouais.
C'est ça qui est fou, c'est que finalement la personne à qui vous avez tout donné, vous évitez une discussion qui consiste pour elle à prendre ce qui lui manque.
Ouais.
Et donc, quand elle appelle, franchement, statistiquement, 100% des gens qui appellent en ayant lu un article veulent être défendus parce qu'ils ont quasiment tout. Donc, bon, s'ils veulent attaquer, il est évident qu'ils vont trouver un avocat. Donc, ils vont devoir trouver un avocat. Donc, ils vont vous choisir parce que vous leur avez donné un petit peu. Et s'ils veulent du conseil, c'est qu'il leur manque quelque chose pour... C'est un conseil précontentieux. Il leur manque quelqu'un pour rédiger le fameux courrier qui est à l'aune de la problématique. Donc non, ils ont besoin de vous et c'est rigolo parce que toujours sur cette, comme quoi il y a vraiment quand j'y réfléchis, il y a vraiment des trucs qui se rejoignent. Comme j'écris des articles, de temps en temps, j'ai des journalistes qui m'appellent. Pas plus tard que avant-hier ou bon, il y a quelques jours, il y a une semaine, j'ai un journaliste qui m'a appelé, qui m'avait déjà appelé pour une émission parce que je fais de l'audiovisuel aussi, qui m'avait posé des questions sur une émission qui s'appelle Koh-Lanta. Je lui avais répondu avant une audience, par écrit, à ces questions. C'était le jour où il y avait des problématiques sur quelqu'un qui avait triché dans Koh-Lanta.
Oh là là.
Voilà. Et donc, du coup, il y avait une menace d'élimination pure et simple de cette personne. Donc, le jour même, c'était le journal Sud-Ouest, je crois. Le jour même, Sud-Ouest voulait écrire un article sur que va-t-il se passer ce soir d'un point de vue contrat et audiovisuel. Donc, ils ont eu mes coordonnées, suite à un article, j'imagine. Ils m'ont posé des questions, j'avais répondu. J'avais fait des blagues, encore une fois. J'avais répondu. Toujours un aspect pratique de la question, c'était alors TF1 va faire quoi ? Et je leur avais dit, de toute façon, TF1 peut tout à fait signer un accord de confidentialité avec les participants pour que vous ne sachiez pas ce qui a été dealé et ce qui ne sera pas révélé à l'antenne. C'est à peu près ce qui s'est passé. Et cette personne m'a rappelé, pas plus tard que récemment, sur une problématique Star Academy. Parce que... le droit du travail, parce que l'interdiction du téléphone. Et au bout d'un moment, il me dit « Non, mais c'est vachement sympa de répondre à mes questions. » Et moi, de lui dire « Mais de toute façon, moi, ça ne me dérange pas de répondre à vos questions. Ça ne me dérange pas de répondre à vos questions. » Et gardez à l'esprit que quand je réponds à vos questions, finalement, je me forme, entre guillemets. C'est-à-dire que je réponds à des problématiques que je réutiliserai de toutes les façons. Et je dis souvent ça à mon collaborateur, c'est quand bien même on répondrait à des questions pro bono, on ne le fait pas beaucoup, il ne faut pas transmettre l'information qu'on répond à des questions pro bono.
Du coup, personne ne le sait.
Personne ne le sait. Mais en fait, ça sert. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le seul métier où, de toutes les façons, même ce qui est donné comme ça, gracieusement, entre guillemets, servira à être facturé plus tard. La problématique sur laquelle il m'a demandé d'intervenir, ça m'a demandé quelques petites recherches. Je lui ai donné la réponse. Je suis à peu près convaincu qu'on en reparlera dans un dossier dans peu de temps. Donc, je pense qu'il ne faut pas être économe de ces conseils, parce que de toutes les façons, rien ne se perd, tout se transforme, tout se facture.
Ouais, bah moi je vous rejoins et je le dis mais vraiment tout le temps à mes clients, quoi. En fait, c'est la radinerie, c'est rarement productif et en fait finalement vraiment et en plus et donner de façon radine, c'est presque pire, c'est-à-dire que vraiment
oui.
mais bon, après c'est des grands débats, mais en tout cas voilà, vous, vos premiers clients, ils sont venus donc du réseau de confrères et aussi de votre production, du blog, etc.
Tout à fait.
Alors maintenant, l'époque des blogs est un peu terminée, c'est-à-dire que maintenant les blogs, c'est des blogs qui sont là pour faire pour servir au SEO, et donc on est dans des blogs qui ont une portée marketing. Mm-hmm. Ça sert au SEO, ça sert à rassurer en termes d'arguments d'autorité. Quelqu'un qui vient sur le site, elle voit que bah, mine de rien, vous avez l'air de toucher un peu à ce que vous prétendez, ce sur quoi vous prétendez être compétent, etc. Mm. Mais il y a moins ce côté blog tel que c'était de façon originelle dans les années 2010. Et comment est-ce que... Enfin, votre blog, vous le faisiez connaître, vous le partagiez, qu'est-ce que...
C'est une bonne question. Je pense que vraiment, c'était avant le Google Ads, là, Google AdWords. Et, enfin, avant, ça existait, mais c'était moins répandu que maintenant. Et en fait, le référencement naturel sur Google, parce que les gens tapent sur Google les choses... Bah, permettait d'être dans les premiers résultats sur toutes ces problématiques là. Donc j'avais pas trop besoin parce que Google faisait le travail. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que par nature, les 6 premiers résultats sont des annonces. Donc maintenant, c'est noyé dans la masse. Mais je le faisais pas connaître particulièrement, mais je travaillais les sujets pour que ce soit dans les premiers résultats.
Mmh. Non, mais c'est parce que même quand j'y pense, enfin... Quand j'étais étudiante, donc entre les années 2009 et les années 2014, surtout sur la fin, c'est-à-dire entre 2012 et 2014, on va dire, je me souviens que je lisais le blog de Garance Doré, je lisais le blog de Sophie Fontanelle, je lisais... et c'était, il y avait des vrais rendez-vous blog, c'est-à-dire on se rendait sur un site internet pour voir les actualités de ce site, et les forums de ces sites étaient actifs, etc. Et ça, maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, ces interactions, elles ont lieu sur les réseaux sociaux, des gens qui publient des articles.
C'est vrai.
Et en fait, les réseaux sociaux servent à attirer les gens sur les, entre guillemets, blogs, mais c'est pas du tout la même utilisation de ce genre
c'est
de ressources.
Il y a une vraie bascule, effectivement. Après, sur des contenus, je dirais contenu juridique. Est-ce que c'est vraiment le cas toujours? Je sais pas.
J'en sais rien.
Est-ce que les gens, bah, je saurais pas vous dire.
Je sais pas. Typiquement, l'exemple, c'est Maître Eolas. Je sais pas si Maître Eolas il continue son activité d'ailleurs de rédaction et de blogging, mais il a aussi une activité sur les réseaux sociaux, mais qui est pas du tout la même que celle sur son blog. Oui. Enfin, il creuse de façon hyper profonde des sujets, des thématiques juridiques et tout. Et donc, c'est vrai que la dynamique a complètement changé. Et moi, aujourd'hui, il y a, en fait, je suis des personnes sur leurs réseaux sociaux, mais il y a assez peu de blogs que je vais suivre pour le blog. Alors, à un moment, il y a eu Medium, qui était une sorte d'intermédiaire là-dedans. Mais bon, bref.
On en parle moins.
On en parle moins. Je pense que ça a moins pris en France.
Il y a une bascule. Maintenant, c'est vrai que le site dédié a du contenu. Est-ce que les gens, il y avait les flux RSS, est-ce que les gens y sont toujours attachés? C'est pas sûr. Là, j'avoue que, à la limite, la plateforme, et c'est pas le plus important parce que Google fait le reste. C'est-à-dire qu'au fond, ce que les gens cherchent, c'est une réponse à leur problématique. Ils vont taper que faire si j'ai un problème d'injure sur Internet et ils vont taper plus avocat, typiquement. Qui le découvre, à la limite, qu'il n'y ait pas une vidéo de vous qui en parle, c'est peut-être mieux. C'est eux qui cherchent un contenu brut, avec la meilleure personne pour leur expliquer de A à Z ce qu'ils vont devoir faire. Donc je pense qu'on est un peu vieille école chez les avocats. On va dire que le blog peut continuer à exister, je pense. En tout cas, pas le blog en lui-même, mais la rubrique sur un site avec des news, parce qu'elle sera relayée par Google.
Oui. Tant qu'elle permet de répondre à des questions concrètes que se posent les gens.
C'est ce que les gens cherchent. Je pense que la forme importe peu. Ce qu'ils veulent, c'est le contenu. Ouais.
Et donc ça a amené pas mal de clients dès le démarrage, en fait. Et ensuite, le développement, comment ça s'est développé?
Et le développement, en fait, sont les clients... alors, parfois, vous avez des clients qui ont des problèmes, mais souvent.
Surtout quand on travaille avec des entreprises.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, vous avez des clients réguliers qui sont arrivés comme ça, avec pas une problématique un jour, mais des problématiques toujours, on va dire ça comme ça. En tout cas, assez souvent. Et donc, comme j'étais encore, jusqu'à il y a 3 ans, j'étais encore seul, j'avais tendance à dire à un ami que je suis artisan, parce qu'en fait, 100% de la production est faite par moi. J'étais très fier. Ça m'allait un petit peu parce que je ne voulais pas être submergé. J'ai gardé ces problématiques de si on veut faire du travail. J'aurais adoré vous dire que on devient, c'est parce qu'on est très très brillant qu'on devient bon avocat, et puis c'est une sorte de talent, et puis si on a le talent c'est bon, le reste suit. Je pense qu'en réalité c'est du travail, vraiment. C'est-à-dire qu'en réalité, sur des problématiques de contentieux par exemple, si vous avez le temps d'analyser les pièces, le temps de challenger vos clients, au point quasiment de les harceler. Moi, mes clients, je leur dis, bon, ok, vous avez très bien, vous m'avez envoyé les éléments, vous m'avez payé. Bon, je vais vous appeler la semaine prochaine pour qu'on discute d'un document qu'on vous a rédigé avec mon collaborateur, avec des questions pour vous. Et d'une certaine manière, on est... en fait, on a assez vite compris, enfin moi je l'ai assez vite compris, et je pense que mon collaborateur aussi, qu'on n'est jamais meilleur que quand on interagit longtemps avec son client pour lui demander des choses. On peut très bien faire quelque chose de stéréotypé qui soit pas mal, j'ai pas de doute sur ça, quand on a du talent, bien entendu. Mais au-delà du talent, si vous consacrez du temps à vos dossiers, vous êtes par définition meilleur que beaucoup qui peut-être se contentent de leur talent ou de leur expérience. C'est selon. Je pense qu'en réalité, bon, sur du contrat, il vaut mieux et avoir le temps et avoir du talent et avoir une bonne base et
tout. L'expérience pratique.
Et de l'expérience. Mmh. Mais sur le contentieux, il y a des choses qu'on trouve dans nos dossiers uniquement parce qu'on y a passé du temps. Il y a des défenses où normalement on doit perdre. Alors normalement on ne gagne pas quand on doit perdre, hein, normalement. Mais on va dire qu'en droit de la presse, il y a tellement de pièges partout que nous on gagne des dossiers qu'on doit perdre normalement parce que on trouve des erreurs de procédure qui sont classiques finalement, mais qu'il faut explorer. Et qu'il faut pointer du doigt pour que le confrère en face se dise « mince, tout était bien, mais sauf ça, et ça, c'était le plus important ». Et ça, faut du temps. En réalité, on en revient quasiment toujours à la même problématique. Pourquoi je veux pas être trop chargé? Parce que en fait, j'ai regardé mes parents travailler quand j'étais petit, et je sentais bien qu'en fait, on pouvait et travailler, être content de travailler. Et je voyais bien que le secret, c'était... de pas être submergé. En fait, personne ne travaille bien en étant submergé, à part des warriors qui sont extraordinaires, tout ça. Mais si on vous enlève du temps pour dormir, du temps pour voir vos proches, du temps pour interagir avec eux, vous ferez du très bon travail. Tout le monde sera content. Vos clients seront contents. Vous serez pas content et finalement, ça ne marchera pas. Donc, du coup, j'avais oublié la question. Du coup,
on parlait du développement et vous dites que oui. Bah en fait, ce qui a permis à votre cabinet de se développer, c'est le travail quoi. Vous disiez, j'aimerais vous dire que c'est une histoire de talent.
Oui, en réalité, c'est quelques résultats avec des clients qui sont du coup contents. Vous avez beau ne pas les avoir sauvés ni parce que c'était la veuve ni l'orphelin, mais ils viennent, ils sont contents. Et je pense qu'ils donnent votre nom. Là, pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec un client qui a donné mon nom à un de ses amis sur une problématique de propriété intellectuelle qui va probablement m'appeler parce que je pense qu'il se sent bien accompagné. Mais c'est pas une histoire de qualité de travail dont je vous parle vraiment, en fait. C'est au-delà de ça. C'est une question de...
De qualité relationnelle et le temps que vous prenez avec les gens.
Voilà, le temps. Je pense qu'ils sont super contents. On est dans un métier, ce que je dis souvent à mon collaborateur, où tout le monde est débordé. Mais pour une raison simple, c'est que on s'est limite, sûrement par politesse, pas refuser des clients, par politesse sûrement.
Et par peur de manquer,
Par peur de manquer plus tard. Et donc au final, on se retrouve dans une situation où tout le monde est full. Tout le monde est full. Il m'arrive très régulièrement de travailler avec d'autres confrères sur des problématiques parce qu'ils ont ils sont sur, je sais pas moi, corporate, admettons, ou d'autres problématiques, et ils me font intervenir sur une partie de la problématique qui est la propriété intellectuelle. Je vois bien qu'ils sont débordés par ce métier, vraiment. C'est-à-dire que je vois bien qu'en fait, ils sont en stress absolu. On interagit ensemble, ils sont full, mais ils n'ont plus le temps. Du coup, on se retrouve parfois à être un peu décorrélé. C'est-à-dire que j'ai fini ma partie et on a un échange, alors qu'on n'est pas collaborateur associé, où je vois bien que leur dire « alors t'en es où ?» Ils le vivent comme une agression, alors qu'on ne devrait pas. Ouais. C'est-à-dire que moi, c'est pas grave s'ils n'ont pas fini leur partie, c'est leur client.
Non, mais c'est très intéressant. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec des freelances et en travaillant avec des freelances qui n'ont aucun complexe, enfin, qui sont au TJM pur et qui vendent des demi-journées ou des journées. Et C'est pas pour ériger ce modèle en modèle. Je pense que ça fonctionne bien avec certains corps de métier, moins avec d'autres et tout. Mais et en fait, ces personnes-là, elles savent que dans la semaine, elles ont 6 demi-journées facturables, 2 demi-journées non facturables. Et en fait, c'est calculé dans leur tête. Leur agenda, ils remplissent des demi-journées. Et à partir du moment où leurs demi-journées sont remplies, où ils savent qu'ils débordent par rapport à le plan de charge qui est leur plan, qui est leur stratégie, qui rentre dans leur stratégie et tout, et où ils débordent et ils débordent là-dessus, où ils refusent les clients en disant bah là, j'ai pas de temps avant dans X temps. Et j'ai énormément appris de ça parce que, en fait, du coup, j'ai découvert des gens qui refusaient des clients. Et moi, j'ai jamais travaillé pour des gens qui refusaient des clients. C'est-à-dire qu'en fait, la réponse est toujours. Globalement, on se démerde, quoi. On se démerde. Et d'ailleurs, on se démerde, c'est souvent le collaborateur qui va y passer, qui va y passer du temps. Mais je sais que c'est pas que ça non plus, parce que c'est aussi des individuels qui, du coup, se démerdent eux-mêmes. Et ça peut s'expliquer par des particularités du métier d'avocat, sur certains aspects et tout, et je veux bien. Mais n'empêche que moi, ça m'a vachement impacté de me rendre compte qu'il y avait des gens qui avaient cette confiance en l'avenir, de dire en fait, là, ma prochaine dispo, c'est dans 2 semaines. et en fait, ben voilà. Et en fait, elles ont confiance que globalement, elles vont remplir leur plan de charge. Et je trouve ça scotchant. Et donc, mais je vous rejoins. Mais moi, je suis la première à avoir du mal à dire non, hein, et à me retrouver débordée. Alors que je vous rejoins sur le fait que l'ultime luxe pour un client, c'est de sentir qu'on a du temps pour lui.
Oui, c'est ça.
Et qu'on n'est pas en train de compter la minute. Et ça, c'est l'ultime luxe, en fait.
Et vous ne savez pas, d'ailleurs, à quel point il vous en remerciera. C'est-à-dire qu'il voit que vous avez du temps. Il va peut-être vous confier quelque chose qu'il n'avait pas du tout envisagé de vous confier au départ. Mais il va se dire, le service est au rendez-vous. Moi, j'ai beaucoup d'admiration, au-delà du métier d'avocat, hein, sur... l'idée du service, c'est-à-dire qu'au fond, quand je vois un boucher qui est extraordinaire, qui vient avec le smile tout le temps, je trouve ça super, j'aime bien. De façon générale, je l'observe beaucoup, j'aime bien les gens qui sont contents de faire ce qu'ils font, vraiment contents. Et je trouve ça, ça m'envoie de bonnes vibrations. Et ce que je tente de montrer à mes clients, c'est que, en fait, ils ne m'embarrassent pas par leur demande. Mais pour ça, il faut... je pense que vous pouvez pas, comme vous ne pouvez pas calibrer ce qui va rentrer, il faut accepter, alors j'ai une expression avec un ami, on se fait souvent des phrases définitives, de décroître pour croître. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut quasiment accepter de ne pas tout accepter du coup. Je ne refuse jamais de clients, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Finalement, on a une discussion, je propose un prix, comme par hasard, ça ne va pas, voilà. Je me doutais que ça n'allait pas.
Mais ça... Moi, je parle de votre perspective, pas de la perspective du client. Les clients ne se rendent pas compte que vous les refusez,
oui,
mais en fait, vous-même, vous vous organisez un peu pour que ça aboutisse au fait que vous travaillez ensemble.
Mais le truc, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose... En fait, je sais que si je m'organise avec mon cabinet pour être full à 100%, je vais être full à 150%.
Et parce que je sais que vous avez une contrainte à 19h, donc je vais respecter ce timing. J'ai une question. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé il y a 3 ans et recruté quelqu'un ?
C'est une bonne question.
Qui était, ce que je comprends, un stagiaire avant d'être votre collaborateur. Qu'est-ce qui fait que vous avez finalement décidé de croître ?
Alors du coup, j'essaie d'être cohérent jusqu'au bout avec ma personnalité. C'est qu'au fond, j'observe beaucoup des confrères qui... sont dans « je vais croître d'abord et croître encore plus après ». C'est-à-dire prendre un collaborateur pour prévenir le moment où ça va basculer. Comme ça, il sera super bien formé. C'est une super logique. Hein. Il sera super bien formé quand vont arriver les clients énormes. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Moi, je suis plutôt dans la réaction que l'action. Et donc la réaction, d'autant plus que je suis convaincu qu'on peut s'adapter vite dans ce métier. Et donc, j'étais très content donc je me suis installé en 2010, donc de 2010 à 2019, j'étais hyper content d'être artisan, vraiment très fier. C'est-à-dire, j'avais des interactions avec des confrères qui me disaient oh, « vraiment, sans collaborateur, comment c'est ?» et tout. Je dis « mais c'est très bien, je suis très content,
je gère
très bien, j'ai du temps pour ma famille. » Enfin, j'étais très content, mais vraiment. Et il y a 2 événements qui m'ont fait basculer, comme quoi vraiment, je m'en rappelle. Donc si je vous en parle, c'est que c'est vraiment ces 2 événements-là. Le premier, je décroche un énorme client, vraiment énorme, parce que vraiment en travail à produire et en demande, C'était super important. J'avais déjà eu une piste pour un encore plus énorme client où je me suis dit vraiment que ça me je suis pas de naturel stressé. L'idée même de bosser pour lui me commençait à me stresser. C'est-à-dire que, et donc par politesse, j'ai proposé un prix pour que on me dise non, bien entendu. Voilà. Donc
j'adore
bon, bref.
Méthode.
Donc du coup, ça a été non. J'étais très rassuré quand ça a été non parce que je peux vous dire que j'avais peur que ce soit oui parce que je pouvais pas complètement dire n'importe quoi en termes de prix. Et donc là, arrivé à un moment, je rappelle la bascule, tout intervient à la même période, c'est, je vois le client en question, je suis pour lui, on va dire, délégué à la protection des données, et il a une visite de la CNIL, une semaine où j'ai beaucoup de cours. C'est-à-dire qu'en fait, cette semaine-là, j'ai pas de cours, mais la semaine d'avant, j'ai des cours, et la semaine d'après, j'ai des cours. Et le client m'appelle, je suis au cabinet, il est à 15 minutes d'ici, et il me dit « la CNIL est là ». Et donc je dis, c'est-à-dire la CNIL est là, il est 9h du matin, je me dis « mais la CNIL est là, ça veut dire sûrement la CNIL est là, c'est un jeu de mots, enfin la CNIL est là, je comprenais pas ». Et donc j'ai compris que la CNIL était là, donc il fallait vite que je me débrouille pour y aller, et j'aurais pu être beaucoup plus loin dans Paris, en train de rédiger, enfin de donner un cours. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué, il m'appelait 4 jours avant, j'étais en cours. Et là, pour le coup, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'être aussi disponible, de débarquer aussi vite. Et toujours dans cette idée de service, je me suis dit, bon, tu peux pas facturer très cher des clients, être en solo, pas avoir de possibilité de t'adapter. C'est pas possible. Tu croyais ça possible jusque-là.
C'est contradictoire avec le service même.
Voilà. Jusque-là, ça allait, c'était très bien. Bravo, merci d'avoir fait tout ça et tout. Mais là, c'est plus possible parce qu'en fait, ils te payent trop pour que le service soit pas au rendez-vous. Ils m'ont jamais questionné sur vous avez un collaborateur, ça les intéressait pas. Mais là, pour le coup, je pense que si dans les 15 minutes, j'avais pas été là et que j'avais dit alors, du coup, excusez-moi, j'arrive dans une heure, ça l'aurait pas fait.
Ouais.
Et donc là, je me suis dit, ok, donc crispation. Pour moi, je me disais, ah, le service est pas au rendez-vous, donc toujours cette idée de service. Et le deuxième truc, c'est. J'avais un appel d'offres, je crois que c'était la Fédération Française de Tennis, toujours la même période. Hein. Je l'avais trouvé génial. Je réponds pas à des appels d'offres parce que souvent je trouve que c'est un peu bon. Voilà, on a déjà choisi quelqu'un, mais on vous dit d'y participer. Et c'est un appel d'offres que je vois sur Internet. Les missions sont géniales. Je me dis, oh là là, la mission pays, elle est top. En plus, j'adore le tennis, j'y ai joué. Bon, bref, la mission est top. J'adore. Le truc est génial. Et je vais en page, je demande un exemplaire, parce que tous les exemplaires de l'appel d'offres sont titrés du nom de la personne, de l'avocat qui demande. Et je sais pas, j'arrive en page 19, et je vois marqué, vous nous donnerez le nom de l'associé et du collaborateur référent. Et en fait, c'était pas une condition d'avoir un associé, un collaborateur. Mais je me suis dit, ok, on est dans les limites du système. Ce truc te plaît, tu peux pas répondre parce que tu te trouves pas crédible pour y répondre. C'est dommage. Et donc, du coup, deux frustrations sur une même période. Je reçois un stagiaire qui est devenu mon collaborateur et à l'entretien, lui qui me dit alors, il y a une perspective de collab à la fin. Je dis, écoutez, c'est rigolo parce que jusqu'à aujourd'hui, la réponse aurait été non. Mais là aujourd'hui, je pense que franchement, je pense que je vais me diriger vers ça. Je vous dis pas que je voulais vous la proposer et tout. Et un an plus tard, il candidate. On est en mai, on doit se finir le stage en juin. C'est pendant le Covid. Mm. On est en télétravail tous les deux et tout depuis mars. Et il m'envoie un message en me disant « Bon, vous vous rappelez, l'an dernier, vous m'aviez dit que justement, avec l'appel d'offres de la Fédération française, je lui ai tout raconté. » Est-ce que vous êtes toujours dans une logique de collab? Et je lui dis, écoutez, on va y réfléchir, je vais vous donner la réponse et je le prends en collab. Voilà.
Et ça se passe bien depuis, pas de regret?
Ah non, pas du tout, pas du tout, je reviendrai.
Et ça a répondu à vos attentes de ce point de vue-là?
Ah mais 100 fois, c'est-à-dire que, en fait, je suis tellement dans cette idée de service qu'en fait, ce qui me stresserait, parce que j'essaye de pas stresser, ce qui me stresserait, c'est pas délivrer un service, c'est vraiment... Souvent, j'ai des interactions avec des confrères qui me disent « Oui, alors, faut respecter, c'est quand même l'avocat, faut que le client respecte l'avocat. » En rigolant, j'exagère un petit peu dans la blague que je vais vous faire, vous êtes d'accord avec mes honoraires, vous aurez mon service et ma considération. C'est-à-dire qu'en fait, le seul point de frixation peut-être que j'aurai avec mon client, c'est les honoraires, et après, je délivre. C'est-à-dire que, qui d'ailleurs sont payés très souvent dès le départ. Je n'ai pas de, j'attends pas de lui qu'il me fasse du maître. Pourrais-je discuter avec vous? Enfin, franchement, je fais pas ce métier pour que. D'ailleurs, peut-être dans les années 80, vraiment un avocat c'était rare. On se levait. Si jamais il arrivait dans une pièce, les gens se levaient. Maintenant, il y en a partout des avocats. Enfin, c'est mignon de croire encore que ça représente un truc extraordinaire. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce soit très respectable, mais vous dire aujourd'hui que. Quand j'annonce que je suis avocat, les gens se prosternent, ce serait un mensonge. Donc, ça sert à rien. Moi, je suis vraiment dans le service. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse, ce que je trouve super avec le fait d'avoir un collaborateur, c'est que on a des interactions. Donc, en qualité, d'un coup, on est mieux parce qu'il fait des recherches, parce qu'on interagit ensemble, parce que parfois on n'est pas d'accord. Et du coup, le client le voit parce qu'on délivre plus vite. Et ça, le client le voit. Et du coup, en qualité de travail, je suis super content. Et mes clients, ils me le disent pas, parce que bon, super content. Si vous dites à votre avocat que vous êtes super content, bon, il va peut-être vous facturer plus cher. Donc, les compliments sont rares pour les clients. Mais en tout cas, moi, très honnêtement, on part d'une frustration que j'ai ou d'une peur que j'ai pour prendre un collaborateur. 2 ans plus tard, je vous dis, je suis super content d'en avoir pris un. C'est-à-dire, je reviendrai pas au schéma initial, sauf à réduire la voilure du coup. Réduire la voilure de clients qui arrivent, on va dire ça comme ça. Parce que de toute façon, ce qui dictera, je ne sais pas si on en parlait off ou pas, mais ce qui dicte en fait mes choix en tant qu'avocat, c'est des choix de structure, c'est le fait de vouloir coller aux besoins de mes clients. C'est uniquement ça, c'est-à-dire que si jamais j'ai des clients pour un collaborateur, j'aurai un collaborateur. Si j'en ai vraiment pour deux, bah, je pense que j'en aurai deux. Mais ça.
Non, mais il y a quelque chose de très pragmatique derrière ça. Ça me renvoie à la conversation que j'ai eue hier avec Pauline Rongier, hein, qui dit bah, en fait, moi, tant qu'on a besoin de moi, j'aurai des collaborateurs. Donc, si on a plus besoin de moi et qu'il faut que j'ai plus de collaborateurs, ben, j'aurai un collaborateur de plus, deux collaborateurs de plus. Et elle part vraiment du besoin du terrain qui est, et elle n'est pas dans cette logique de. Et qui peut être la logique d'autres. En fait, il n'y a pas une logique qui est meilleure que l'autre, mais elle n'est pas dans cette logique de ben moi, ce que je veux atteindre, c'est ça. C'est une structure où j'ai une équipe de 10 personnes et où il se passe ça et on gère ça et tout machin. Alors, en mode, ben moi, si on me sollicite et que je suis full, c'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un d'autre, donc j'aurai quelqu'un d'autre. Et donc, et elle a vraiment cette logique hyper servicielle aussi, en fait, qui est. Que je trouve intéressante.
Enfin, ben oui. Après, je vous dis, vous pouvez poursuivre des rêves. Moi, en tout cas, mon rêve, c'était pas. Mon rêve, c'était de devenir avocat. C'était pas d'avoir nécessairement plein de collaborateurs. Après, je vous dis, c'est super. Si je dois faire la publicité pour le fait d'avoir un collaborateur, il faut en avoir un. Mais il faut en avoir un que si on se sent à l'aise dans le fait d'en avoir un aussi. Ouais, je pense qu'on s'invente trop de problèmes. Dans d'autres corps de métier, il faut. Vous prenez un restaurateur, il doit prendre un pas de porte. Acheter un fonds de commerce, donc du coup, des locaux, il doit les louer, payer du personnel. En termes de prise de risque du métier d'avocat, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'on n'est pas obligé, si on veut exercer, de...
C'est la beauté des prestations intellectuelles. C'est-à-dire voilà. C'est que globalement, à partir du moment où on est soi et son cerveau, on peut déjà faire pas mal de choses. Je voudrais juste, parce qu'il est 57, qu'est-ce que vous voyez comme, qu'est-ce que vous voulez pour demain, pour votre cabinet? Globalement, vous avez répondu, c'est le fait de pouvoir continuer à être au service de vos clients. Est-ce qu'il y a autre chose?
Oui, alors qu'est-ce que je veux? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je veux? J'aimerais bien, à minima, être dans une configuration dans laquelle je suis. Et à maxima, je ne sais pas, continuer sur cette logique de un jour, j'aurai une nouvelle frustration qui sera je considère qu'à deux, on ne délivre pas suffisamment et qu'on passera à trois. C'est-à-dire que je ne détesterai pas, surtout qu'en fait, j'ai un petit réseau d'anciens stagiaires qui sont maintenant devenus avocats, dont je devine qu'ils ne détesteraient pas revenir éventuellement. Et donc, je me dis, pour le coup, ça fait des gens potentiellement qui, si ça devait, il devait y avoir une opportunité, diraient peut-être pas non. Donc, si vous, en plus, vous savez potentiellement qui vous pourriez embaucher, c'est toujours plus simple, plus facile, on va dire ça comme ça. Mais ce sera toujours une histoire d'allier le confort, d'allier. En réalité, on ne nous forme pas au management. Donc, de toutes les façons, On ne sait pas trop, on sait qu'en situation, si on est bon pour manager quelqu'un.
Ça, c'est clair.
Donc, pour l'instant, pendant longtemps, je me disais, quand je prenais des stagiaires, bon, finalement, je suis très cool, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et si je vois quand je voyais des avocats être un peu tendus avec leurs collabs, je disais, ne juge pas, parce que peut-être que c'est parce qu'ils coûtent très cher qu'ils sont tendus. Bon, aujourd'hui, j'ai un collaborateur, je pense ne pas avoir beaucoup changé d'attitude entre ce qui j'étais en stage et qui je suis maintenant qu'il est collaborateur. Donc, est-ce que la bascule se fera à deux, à trois, je ne sais pas. Mais du coup, non, ce que je me souhaite, ouais, c'est peut-être de structurer le cabinet autour d'un tout petit peu plus de monde, peut-être. Mais je ne suis même pas sûr de me le souhaiter complètement. On va dire que pour l'instant, je suis très bien. J'aimerais continuer à prendre du plaisir dans la façon dont j'exerce le métier et avoir des clients qui, de temps en temps, me laissent entendre qu'ils sont assez contents du service délivré. Voilà. S'il y a ça et que ça dure 40 ans, 30 ans, ça me va très bien, très bien, parfait.
Quelle est votre dernière joie ?
Quelle est ma dernière joie ? Quelle est ma dernière joie ? C'est une bonne question. Bon, c'est des interactions familiales, ce sont des interactions avec mon fils, avec ma fille, avec mon épouse, c'est autour de ça. Mes grosses joies, c'est autour de ça. Les joies professionnelles, je les distingue un petit peu, c'est des satisfactions. Les joies, c'est plutôt truc familial, donc ma dernière joie, c'est du temps passé avec ma famille, la plupart du temps, c'est un peu ça l'idée.
Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Des convictions, une forme de détermination, je dirais. Ouais, des convictions et une forme de détermination. Ouais, surtout ça, surtout ça.
Ah, il est 19h, sinon je vous aurais demandé quelles étaient ses convictions.
Non, des convictions, c'est le fait de tenir tout ce que je viens de vous dire là au téléphone. Parfois, il m'arrive d'avoir des interactions avec des clients, je suppose, qu'ils se disent qu'ils vont tomber sur l'avocat un peu qu'ils avaient imaginé, mais en mal. On n'est pas une profession où les gens viennent avec des présupposés positifs. Peut-être qu'on vous a dit d'autres choses dans des podcasts,
vrai.
Mais
il
y a une méfiance. Franchement, il y a une vraie méfiance. Donc, j'aurais tendance à vous dire, souvent j'ai des interactions avec des clients qui viennent pas dans l'agressivité, mais qui supposent. Par exemple, ils commencent à me dire oui. Par contre, il faudrait être rapide sur le fait de délivrer. Et je dis mais non, de toute façon, tout dépend de vous. C'est vous qui donnez le tempo. Si vous me dites que vous êtes d'accord avec mes honoraires, que vous me payez. Qu'on tombe d'accord sur tout, vous aurez la diligence dans tant de temps. Et ça vient probablement du fait qu'ils ont l'impression parfois d'être baladés, de ne pas avoir le service attendu. Donc, je quitte quasiment parfois à être agressif avec le client, je leur dis un peu leur cas de vérité. Sous-entendu, je pense que vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un peu ces convictions-là. C'est-à-dire que je suis tellement attaché à cette histoire de service qu'il peut m'arriver de temps en temps, de bousculer le client qui veut m'envoyer un message qu'il aurait dû envoyer à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Voilà, on va dire ça okay. Comme ça. Voilà.
Et ben merci beaucoup pour cet échange.
Ben merci Lila Louise, et puis
à bientôt.
À une prochaine fois.
Ben oui.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !